Vous êtes sur RTL.
Initiative et je vous en remercie.
Bonne émission.
Bonne journée Jérôme Florin. Gérald Darmanin est ce matin l'invité de la matinale d'RTL. Le ministre de l'Intérieur répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Le moral de nos policiers après 3 mois de thérapie de groupe avec le fameux Beauvau. La situation à Marseille, 13 morts depuis le mois de juin, je vous le rappelle. Le ministre est de retour des départements touchés aussi par des pluies exceptionnelles. Là aussi, il nous donnera les toutes dernières informations. Mais ce n'est pas tout, car dès 8h20, vous pourrez l'interroger toutes vos questions au 3210 ou 64 900. Pour les SMS, la question de la sécurité est centrale dans la perspective de l'élection présidentielle. Gérald Darmanin occupe donc une place très importante dans l'équipe Macron. L'autre actualité, en plus des orages, est sportive, vous le savez, avec l'entrée en lice du Paris Saint-Germain ce soir qui se déplace à Bruges. Nos trois stars, Messi, Neymar et Mbappé, pourraient être alignés, nous dirons nos spécialistes. Match à suivre dès 20h45 avec l'équipe des sports d'RTL. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le déluge du siècle hier dans la région de Nîmes.
2 mois et demi de pluie en 3 heures, du jamais vu, et ces automobilistes sur l'autoroute A9 obligés de monter sur les toits de leur voiture pour échapper à la montée des eaux. Certains ont dû être évacués par hélicoptère. 1 heure sur le terrain et 7 heures dans les bureaux à faire de la paperasse. Emmanuel Macron promet de simplifier la vie des policiers. Plus facile à dire qu'à faire, on verra ça. Pas de souplesse pour les soignants non vaccinés. Les sanctions commencent aujourd'hui. Un village des Vosges, par exemple, va perdre son unique médecin généraliste. Et puis on découvre ce matin l'ampleur du chaos des derniers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chef d'état-major de l'armée américaine, selon des journalistes du Washington Post, avait demandé à ses adjoints de ne plus lui obéir, de peur, par exemple, qu'il ne déclenche une guerre.
La politique, Olivier Bost.
3% des électeurs détiennent la clé de la future présidentielle. Mais qui sont-ils ?
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Un déluge de pluie, comme on en voit une fois tous les 100 ans. Voilà ce qui s'est passé hier après-midi dans le Gard, dans la commune de Saint-Dionysie, par exemple, pour ne citer qu'elle, à côté de Nîmes. Il est tombé presque 2,50 m de pluie en 3 heures. Et donc, à quelques kilomètres de là, ça a été un véritable chaos sur l'autoroute A9, bloquée pendant plusieurs heures. La montée des eaux brutale a surpris Jérôme, chauffeur routier.
Je me suis arrêté à faire une pause demi-heure et quand je me suis réveillé, voilà, il commençait à y avoir quoi, 20 cm et à 5 minutes, 10 minutes grand max, 1m50. Je suis sorti par la fenêtre, je suis monté sur le toit.
Le camion a bougé ?
Non, le camion n'a pas bougé parce qu'il est chargé. Il n'aurait pas été chargé, ouais, j'aurais dérivé. Ouais, impressionnant, ouais. Il fallait surtout pas tomber dans l'eau avec le courant qu'il y avait, quoi. Tu vois ta vie défiler, quoi. Tu te dis merde, il faut que je sorte de là parce que sinon je vais y rester, quoi.
Voilà ce témoignage de Jérôme au micro de nos confrères d'M6, obligé de monter sur le toit de son camion. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Vous êtes sur place et à l'image de ce chauffeur routier, des dizaines d'automobilistes ont dû être secourus hier.
Oui, une situation inédite. Près d'un mètre d'eau sur la chaussée de l'autoroute A9, sur une centaine de mètres. Les automobilistes, les chauffeurs, ont dû abandonner leurs véhicules par dizaines. Ils ont été recueillis principalement dans la salle municipale de Bernis, la commune la plus proche. Là, les bénévoles les ont réchauffés, les ont réconfortés, les ont nourris et ont s'est démenés ici pour trouver une chambre à chacun pour la nuit.
Et Patrick, quelle est la situation ce matin dans le département du Gard ?
Les pompiers m'ont confirmé que la nuit a été très calme. On attend encore de fortes pluies cet après-midi, mais rien de comparable à hier. Les établissements scolaires sont fermés, pas de train entre Nîmes et Montpellier avant la semaine prochaine au moins. Et une personne est encore portée disparue. Elle aurait chuté dans un ruisseau, le Rony, sur la commune d'Émargues. Un ruisseau qui hier était un torrent furieux.
Merci Patrick Tégéraud, envoyé spécial d'RTL sur place. Et donc on vous entend. Hein. L'appel à la prudence ce matin, en plus du Gard et de l'Hérault, l'Aveyron, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier sont en vigilance orange à cause des orages à nouveau à venir.
Et nous suivrons tout cela bien entendu avec Louis Bodin. À la une ce matin également, les promesses d'Emmanuel Macron aux policiers.
Oui, l'engagement le plus immédiat, une rallonge budgétaire de 500 millions d'euros dès l'année prochaine pour améliorer le fonctionnement de la police. Mais on va s'arrêter ce matin sur cette autre annonce, généraliser ce qu'on appelle les amendes forfaitaires, c'est-à-dire la possibilité de verbaliser directement par exemple un consommateur de drogue. En théorie, en évitant un transport au commissariat, cela permet de gagner beaucoup de temps. Le problème, c'est que d'après vos informations, Thomas Proutot, 6 amendes sur 10 ne sont pas payées.
L'amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, introduite en septembre 2020 pour sanctionner rapidement les consommateurs, et brandie hier encore par Emmanuel Macron comme une solution miracle pour simplifier le travail des policiers, souffre en fait du même mot que tous les PV, son paiement effectif. Le recouvrement bute sur des problèmes classiques, adresse inconnue, contestation en tout genre, et au bout de la procédure, insolvabilité de la personne visée. Les députés de La République En Marche qui ont levé le lièvre proposent un amendement dans une loi actuellement examinée à l'Assemblée et qui rendrait passible du tribunal correctionnel les mauvais payeurs. Autrement dit, un retour à une procédure lourde pour une amende dont le rôle était justement d'alléger le travail des policiers et des magistrats.
Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Le président qui promet aussi de simplifier les procédures pour éviter que les enquêteurs ne passent des heures au bureau au lieu d'être sur le terrain. Hein, je vous lisais en titre. Une heure d'enquête sur le terrain, ça veut ensuite dire 7 heures au bureau à rédiger des procédures.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est l'invité d'RTL ce matin. Il répond aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Et à vos questions, vous, au téléphone, dès 8h20. Pour l'heure, il est 7h05 sur RTL. Et donc, à partir de ce matin, les professionnels de santé non vaccinés ne peuvent plus travailler.
Oui, il reste 300 000 personnels non vaccinés. C'est une minorité, mais avec parfois des conséquences très concrètes. Le village de Charmoy-l'Orgueilleux, par exemple, dans les Vosges, se retrouve ce matin sans médecin généraliste, Samuel Goldschmidt.
Il compte 1000 patients à 12 km à la ronde depuis 37 ans, mais non vaccinés, le docteur Bain s'apprête à fermer boutique.
Je suis en retraite et puisqu'il y avait une difficulté, j'étais prêt à continuer un petit peu plus longtemps encore. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout mes patients. Ici, c'est une population rurale avec des personnes qui ont des difficultés de déplacement. La solution, ça serait qu'on puisse continuer à travailler sans obligation vaccinale.
La solution du vaccin, il n'en veut pas. Au village, on se mobilise. Laurent Ruel a déployé des banderoles pour appeler au secours.
Le problème à cette heure-ci, c'est que l'ARS nous supprime notre médecin. Puis ici, les médecins aux alentours ne prennent plus personne du tout.
Le maire, Éric Delmissier, ne se prononce pas sur le choix du docteur, mais s'inquiète pour l'avenir du village.
Un service qui s'en va, il ne reviendra jamais, clairement. Il faut 10 ans pour former un médecin. On ne les a pas prévus il y a 10 ans, en sachant que la population française vieillissait. Ils ne reviendront jamais, c'est parti.
Le docteur, lui, s'est mis en congé jusqu'à lundi, le temps de voir comment évolue la situation.
Merci Samuel Goldschmidt. Et même avec un petit pourcentage de personnel non vacciné, les hôpitaux vont devoir se réorganiser. Vous en parlerez, Yves, avec Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, juste après 7h15.
Une pause et dans un instant, les prix des carburants qui s'envolent. Notre budget essence ou diesel, d'ailleurs, a déjà augmenté de 250 à 300 euros depuis une petite année. A tout de suite sur RTL, restez avec nous.
Pour joindre RTL, appelez 2004 disponible.
Back Market. RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal avec Olivier Bois. La suite du journal donc est le prix des carburants qui s'envolent. Le diesel par exemple a augmenté de 20% en un an, Olivier.
Oui, et la hausse est sensiblement la même pour le sans-plomb. Il y a un effet de rattrapage par rapport aux périodes de confinement, mais l'addition commence à être salée, Christophe Bourou.
Si vous roulez en Renault Clio ou Peugeot 208, en un an, votre plein vous coûte déjà une dizaine d'euros de plus et 15 pour un modèle ancien ou familial, ce qui au final représente, en moyenne, 240 euros supplémentaires par an pour un diesel et 300 pour un essence. À ce rythme, on pourrait atteindre les 2 euros à la pompe d'ici 15 jours, 3 semaines. En cause, la reprise économique qui fait exploser la demande de pétrole et donc augmenter les prix du baril. Toutefois, les experts expliquent qu'on a atteint un pic. Il s'agit, selon eux, d'un rattrapage des prix qui retrouvent leur niveau d'avant Covid. Néanmoins, la note est déjà salée pour le budget des automobilistes, bien entamée également par le coût des réparations qui s'est envolé de plus de 5% en un an.
Merci beaucoup Christophe Bourou.
On découvre ce matin, Olivier, l'inquiétude qu'ont suscité les derniers jours de la présidence Trump aux États-Unis.
Oui, révélation dans un livre écrit par des journalistes du Washington Post. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le plus haut gradé du pays, s'inquiétait tellement de la santé mentale du président qu'il avait demandé non seulement à ses adjoints de ne plus lui obéir, mais il avait pris également l'initiative d'appeler lui-même ses homologues militaires chinois pour les rassurer, Lionel Gendron.
Je peux vous assurer que l'état américain est stable et que tout va bien se passer. Pourtant, la phrase ne transpire pas la sérénité, surtout que le chef d'état-major appelle ainsi son homologue du pays ennemi pour l'assurer qu'il n'y a pas de guerre en préparation, c'est saisissant. Et cela en dit long sur le chaos après la défaite de Donald Trump. La crainte du général Milley et de la CIA que le président n'ouvre un conflit pour susciter une crise et s'octroyer les pleins pouvoirs. Dans une deuxième lettre, après l'attaque du Capitole, le général Milley écrit « tout va bien, mais la démocratie, c'est parfois brouillon. Donald Trump a réagi et parle d'intelligence avec l'ennemi. Une certitude, jamais un président n'avait autant inquiété les militaires, l'administration et une partie des Américains.
Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. En bref, le football, Lille n'a fait que match nul hier soir, 0-0 en Ligue des Champions face aux Allemands de Wolfsburg. Et ce soir, donc, c'est l'entrée en lice du PSG en Belgique face à Bruges. Et ça y est, on va voir enfin Messi, Neymar et Mbappé ensemble sur le terrain. Coup d'envoi à 21h et ce sera une soirée spéciale sur RTL, spéciale Ligue des Champions de 20h45 à 23h avec tout le service des sports d'RTL.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Compiègne.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 5, le 2, le 16, le 11, le 14 et le 13. La dernière minute étant le 2, Caviar.
Le journal de 7h vous était proposé par Olivier Bois. 7h11, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
3% des électeurs, Olivier, détiennent la clé de la future présidentielle. Expliquez-nous.
Alors jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien pour Emmanuel Macron. Le président sortant caracole en tête des intentions de vote pour la présidentielle. Un joli 23-24% ou même 25% d'intentions de vote selon les instituts de sondage. Jusqu'ici tout va bien parce qu'il est président et pas encore candidat déclaré. Jusqu'ici tout va bien parce que son socle ne bouge pas. Or, ça ne va pas durer.
Que va-t-il se passer ?
Eh bien, tous ses stratèges en sont persuadés. À sa déclaration de candidature, Emmanuel Macron va forcément perdre un peu. C'est normal, il n'aura plus sa cape de protection de président. Il ne bénéficiera plus de l'effet rassurant et stabilisateur que procure un chef de l'État. Quand les temps sont incertains, nous nous raccrochons à ce que nous avons. Quand le jeu s'ouvre, comme dans une présidentielle, nous commençons à regarder un peu plus ailleurs, chez les concurrents, si l'herbe n'est pas plus verte. Pour cette raison, Emmanuel Macron se déclarera le plus tard possible pour garder, pour s'accrocher à ces 23-24%.
Mais pourtant, vous venez de nous l'expliquer, ce socle semble solide quand même.
Oui, mais il faut le décomposer. Ah. Il y a dans ces 23-24% d'intention de vote une part importante de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 dès le premier tour. Ils sont toujours là et c'est une belle performance. Il y a aussi des électeurs qui ont voté François Fillon en 2017. Et ceux-là, ils représentent 3-4%. Et ils valent autant que les autres 20%.
Mais pourquoi, Olivier, je ne vous suis pas ?
Eh bien parce que s'ils s'en vont, cela rebat complètement les cartes du premier tour. Emmanuel Macron ne serait plus en tête et Marine Le Pen ne serait plus forcément son adversaire de second tour. Ces 3% d'électeurs concentrent donc toute l'attention du chef de l'État.
Vous voulez dire qu'il les soigne en particulier ?
Oui, quand il intervient à la télé pour dire qu'il fera tout contre le risque migratoire d'Afghans, quand il agite les retraites, puis critique les grévistes à Marseille, quand il annonce une expérimentation pour que les chefs d'établissement puissent choisir leurs profs, quand il travaille son régalien avec le Beauvau de la sécurité comme il l'a fait hier, tout ça parle à tout le monde, mais résonne un peu plus aux oreilles de ces 3% d'électeurs fillonistes. C'est pour ça que pour ceux qui viennent du Parti Socialiste, des fois, le discours du chef de l'État peut sembler déséquilibré. C'est aussi pour ça que l'entourage d'Emmanuel Macron regarde très attentivement ce qui se passe à droite. 3% des électeurs peuvent tout changer.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, Alba Ventura reçoit, je vous le rappelle, Gérald Darmanin. Vous pourrez aussi interroger le ministre de l'Intérieur dès 8h20. Appelez-nous dès maintenant toutes vos questions au standard 3210 ou envoyez-nous ces mêmes questions au SMS au 64 900 en démarrant par le code MATIN.
Yves Calvi, RTL Matin.
Eh bien justement, la ville de Marseille, théâtre d'un été meurtrier. Au total, 13 personnes ont été tuées dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants depuis le mois de juin. Le dernier en date, c'était lundi soir. Le procureur de la République de Marseille, elle-même, parle d'une explosion du phénomène. Explosion du phénomène. Et les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver les auteurs de ces meurtres. On va faire le point sur ces enquêtes en cours. Avec vous, Alice Moreno, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
D'abord Alice, les auteurs de ces fusillades ont-ils été interpellés ?
Eh bien pas tous, hein, loin de là. Seuls 2 fusillades ont donné lieu à des interpellations. D'abord, en juin, 2 individus ont été mis en examen pour homicide volontaire, 2 jours seulement après le meurtre d'un jeune homme de 21 ans dans la cité Bassins. Plus récemment, fin août, c'est une figure du narco-banditisme marseillais qui a été interpellée en Seine-et-Marne, Kamel Meziani, soupçonné d'être impliqué dans la double exécution du 22 août dans la cité de la Marine Bleue. C'était un des fugitifs les plus recherchés de France, selon le ministre de l'Intérieur, déjà condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour plusieurs meurtres en 2016.
Alice, il y a aussi d'autres arrestations. Hein. Au moins 6 hommes qui ne se seraient pas liés précisément à des meurtres, mais bien au trafic de stupes.
Oui, ceux-là sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actions violentes ou violences avec armes. Les enquêteurs travaillent à établir de possibles liens avec les fusillades de l'été.
Mais la police judiciaire de Marseille a pourtant engagé de lourds moyens d'investigation.
Absolument, une soixantaine de policiers de la brigade criminelle planchent régulièrement sur ces affaires, appuyés par une trentaine d'hommes de la brigade de recherche et d'intervention et des enquêteurs de l'Office central de lutte contre les stupéfiants.
Alors, il y a des arrestations, Alice, mais lundi soir, encore un homme était assassiné. Pourquoi ces fusillades ne cessent-elles pas ?
Eh bien, d'abord, une fusillade en appelle souvent une autre, en riposte. Et puis, s'il n'est pas question de laisser le trafic perdurer, des opérations de police peuvent aussi désorganiser les trafiquants, qui vont alors se battre pour gagner un territoire où ils ne sont pas encore dans le viseur des enquêteurs.
Merci beaucoup, Alice Moreno, de notre service police-justice. Bien entendu, nous interrogerons, et vous pouvez interroger, vous aussi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en nous appelons au 3210, en plus des questions qui lui seront posées par Alba Ventura, dès 7h40, donc dans moins d'une demi-heure sur RTL. Il est notre invité exceptionnel ce matin dans cette matinale. Dans un instant, nous serons avec le patron de la Fédération hospitalière de France. Aujourd'hui, l'obligation vaccinale des soignants entre en vigueur et il va nous dire comment l'hôpital fait face à ce nouveau.
Rendez-vous en magasin ou sur IKEA.fr.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h19. Bonjour Frédéric Valtoux.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. C'est donc aujourd'hui, je le rappelle, qu'entre en vigueur l'obligation vaccinale de nos soignants. C'est un jour que vous redoutez au nom des hôpitaux ou vous êtes plutôt serein ce matin ?
Je suis plutôt serein parce que depuis quelques semaines, on sait qu'on n'aura pas 100% de soignants qui vont être vaccinés. Mais néanmoins, on va s'apercevoir, alors aujourd'hui ou demain, quand les chiffres seront publiés par le ministère de la Santé, on va s'apercevoir qu'on est sur un phénomène qui est marginal. Je vais vous donner un exemple. Hein, oui. Chez moi, à Fontainebleau, il y a un peu plus de 2000 soignants. On s'attend à une dizaine, c'est-à-dire moins de, aux alentours de 0,5%, une dizaine de soignants pour lesquels on constatera un refus de vaccination. Donc, c'est toujours pénible parce que c'est toujours, il y a toujours un désordre à réorganiser les services et à constater que il va falloir faire sans quelques individus. Qui feront sans doute peut-être plusieurs milliers au niveau national. Je rappelle qu'il y a 1 million de personnes qui travaillent à l'hôpital et que si on y ajoute tous les soignants libéraux, etc., c'est à peu près un peu moins de 2 millions de personnes qui ont cette obligation de vaccinale. Donc on va constater qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont pas vaccinées, mais c'est pas suffisant, contrairement à ce que quelque part que certains souhaitent, parce que je vois bien les déclarations depuis quelques jours, ça ne déstabilisera pas l'hôpital, ça pèsera simplement sur un peu plus de boulot pour ceux qui restent.
Vous avez des chiffres très récents ?
Non, des chiffres nationaux très récents, non. C'est le ministère de la Santé qui globalise les chiffres. Mais j'entendais Martin Hirsch, le directeur général de la PHP des hôpitaux de Paris, qui est le premier hôpital de France, qui disait qu'il s'attendait à plus de 95% de personnel vacciné. Je vous ai dit, dans mon hôpital, on sera à largement moins de 1% de personnel non vacciné. On voit bien que on va être sur l'épaisseur du trait, comme on dit, de personnes non vaccinées.
Donc ça ne coince pas. Les soignants ont joué le jeu de la vaccination.
Oui, les soignants ont joué le jeu de la vaccination. Vous savez, les soignants, ils ont d'abord l'habitude d'avoir une couverture vaccinale plus large que la moyenne, que l'ensemble des Français. Ils ont l'habitude surtout d'avoir un suivi et des rappels fréquents, réguliers, qui sont très suivis à l'hôpital. Ils ont déjà un rapport au vaccin qui n'est pas celui de monsieur et madame tout le monde. Et ils s'engagent surtout dans une vocation où ils ont l'habitude de soigner les plus faibles. Donc,
pardonnez-moi, je vous interromps, c'est quand même le minimum quand on choisit ce métier, qu'on n'ait pas un rapport à la vaccination qui soit celui de monsieur ou madame tout le monde, non ? Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait besoin de le dire.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait besoin de le dire, mais on oublie qu'il y a, c'était il y a une trentaine d'années, mais quand il a fallu se vacciner de l'hépatite B de manière obligatoire l'ensemble des soignants, ça n'a pas fait à l'époque, ça n'avait pas fait un débat, il n'y avait pas eu une protestation. Bon, l'époque a changé, les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé autour de ce vaccin et tout ce qu'on a pu dire d'idiot sur ce vaccin a pu perturber quelques esprits, mais on voit bien, et je le redis, que c'est marginal. Alors, ça peut gêner le fonctionnement d'un service par-ci ou d'un service par-là, mais les hospitaliers feront face, ils se réorganiseront et je veux dire, la vie continuera. Il faut qu'ils aient conscience, ceux qui persistent et ceux qui vont persister dans les jours prochains.
Oui.
sur une non-vaccination. Il faut qu'ils aient conscience que c'est simplement leurs collègues qui vont rester, qui feront le boulot, alors même que depuis 18 mois, ils sont déjà beaucoup sollicités par l'épidémie. Et alors même qu'on sait qu'à l'hôpital, avant même la crise, c'était déjà compliqué sur le plan des effectifs. Donc c'est des comportements très individualistes, très égoïstes, qui ne prennent pas en compte et la mission et l'éthique de responsabilité qui est la leur, et j'allais dire le travail de leurs collègues avec qui, au quotidien, pour autant, ils travaillent dans les services.
Vous avez été très clair, merci beaucoup Frédéric Valtoux. L'épaisseur du trait, nous dites-vous ce matin, ce sera marginal en ce qui concerne les soignants non vaccinés dans notre univers hospitalier. Merci beaucoup, je rappelle que vous présidez la Fédération hospitalière de France.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, c'est l'heure de retrouver notre pépite musicale avec grand plaisir. Bonjour Stéphane Bellery.
Bonjour à tous.
Et alors, il se trouve que vous avez un cadeau pour nous ce matin.
Oui, c'est une exclusivité RTL. Fin août, Pascal Obispo a révélé dans Laissez-vous tenter qu'il publierait le 29 octobre un nouvel album, son nom France. Il s'agit en fait d'une collection de 12 chansons composées sur mesure pour France Gall en 1997. L'ex-muse de Berger avait écouté les maquettes et poliment décliné la proposition d'un lapidaire « Oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel ». Écrite par Lionel Florence, certaines chansons ont terminé au fond d'un disque dur, d'autres ont eu un destin différent. Pascal Obispo les a proposées au fil du temps à des interprètes et plusieurs sont devenus des tubes. C'est le cas du morceau « Chanté ». Pascal Nègre, PDG d'Universal à l'époque, avait même voulu piquer la chanson pour la donner à Johnny Hallyday. Refus d'Obispo qui n'a pas voulu la céder avant de la faire écouter à France Gall. Mais le titre a vite trouvé preneur, en l'occurrence Florent Pagny qui l'a enregistré pour son album Savoir Aimer. 24 ans plus tard, Pascal Obispo est entré en studio pour immortaliser sa propre version dans la pure tradition Berger Gall.
Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant. Chanter pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église. Retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire s'unir nos voix, autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre.
Chanté par Obispo sera à découvrir le 29 octobre dans son album France.
Pas cesser de vivre, chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant. Chanter pour pouvoir dire je t'aime.
Merci beaucoup Stephen Bellery. C'est perturbant parce qu'on a Pagny dans l'oreille et,
on imagine France Gall.
Ben voilà, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement résumé la situation. Merci beaucoup Stephen. Bonne journée à vous. On va retrouver maintenant nos grosses têtes avec Laurent Ruquier. Ah, c'est dans un instant. Bon alors, c'est dans un.
Information et règlement sur aldi.fr.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cette fois-ci, elles sont là. Nos grosses têtes, vous les retrouvez dès 15h30 avec Laurent Ruquier, toute l'équipe et quelques fake news.
Emballement de l'Arc de Triomphe. L'installation n'aurait pas coûté 14 millions d'euros comme on le prétend, puisqu'on a en fait réutilisé un vieux pantalon gris de Bernard Mabille qu'il ne peut plus mettre depuis qu'il a grossi.
Isabelle Mergaux.
Suite à la décision du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, la chaîne Gulli se voit obligée de déprogrammer tous les épisodes des Schtroumpfs dans lesquels on voyait Gargamel.
Olivier de Kersauzon.
Laetitia Hallyday continue à parler à Johnny, mais uniquement du lundi au vendredi, parce que les banques sont fermées le week-end.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, rendez-vous dès 15h30 cet après-midi. Louis Bodin, bonjour.
Bonjour Yves.
Météo France vient de mettre à jour sa carte de vigilance. Hein.
Oui, avec de nouveau une situation à surveiller dans le Languedoc, la vallée du Rhône, le Massif central. Alors ça s'est calmé ce matin sur le Languedoc, on peut se dire bon ça y est, ça va aller mieux. Non, le risque existe encore malheureusement pour cet après-midi avec une reprise de cette activité orageuse. Toujours difficile à localiser, on l'a bien vu à quelques kilomètres près, on est ou pas sous ces pluies diluviennes. Donc le risque encore du Languedoc, la vallée du Rhône, vers la région Rhône-Alpes cet après-midi. Au sud d'une ligne, en gros, Bordeaux, Metz, eh bien, on conservera un temps instable plus généralement. Au nord, ça sera quand même un petit peu mieux avec certes des averses, mais a priori pas d'orage. Des éclaircies même assez belles près de la Manche. Et puis côté température, ça dégringole, mais ça reste quand même très convenable pour la période. 20 à 23 degrés dans la moitié nord, 23 à 28 dans le sud et encore 30 degrés à Marseille et Bastia.
Merci beaucoup Louis. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 15 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc le jour J pour la vaccination obligatoire des personnels de santé. À partir d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas reçu au moins une dose peuvent être suspendus et à terme licenciés. Ils sont environ 300 000 dans ce cas, à l'hôpital, dans les EHPAD, mais aussi dans les casernes.
Je ne trouve pas ça normal qu'on m'oblige à me faire vacciner sur ce vaccin et pour pouvoir de bien manger à mes enfants et pouvoir continuer à vivre, il va falloir peut-être que je trouve un autre travail. Ce qui m'embête beaucoup puisque finalement pompier c'est mon métier, hein. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors je me défendrai jusqu'au bout et j'espère qu'on aura après un changement sur cette obligation vaccinale qui fera que peut-être je pourrai reprendre l'activité. Mais j'en suis pas certain.
Propos recueillis par Nathan Bocard. Pour l'heure, l'épidémie semble contenue en métropole. On compte moins de 10 000 nouveaux cas par jour et la pression diminue à l'hôpital. Faut-il craindre une reprise épidémique à l'automne comme l'an dernier ? Réponse de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique.
Il faut s'attendre à ce que ça reparte. En revanche, contrairement à l'année précédente, je ne m'attends pas à ce qu'on ait besoin d'aller jusqu'à des couvre-feux, des confinements pour stopper cette vague épidémique, parce qu'on a heureusement une population largement vaccinée.
Arnaud Fontanet dans RTL Soir avec Julien Cellier.
On en vient maintenant aux inondations dans le Gard. Une personne est toujours portée disparue.
Il est tombé hier l'équivalent de 2 mois de pluie en 3 heures. À ce niveau, ça n'arrive qu'une fois par siècle. Parmi les communes les plus touchées, Uchaud au sud-ouest de Nîmes, où Jean-Vincent a vu sa maison envahie par un mur d'eau.
C'est la première fois que je vois dans la rue, l'eau dans la rue si haute. D'habitude, l'eau s'évacue, ça suit son cours, quoi. Il pleut, mais pas si fort. D'habitude, l'eau arrive à 50 cm du garage, pas plus. Là, j'ai vu arriver très proche, je me suis retourné, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et la porte s'est ouverte en grand. En fait, c'est l'eau qui a poussé la porte. Ça a été puissant et rapide. Et puis bon, ça a traversé la maison, et puis, voyez la cour, c'est inondé.
Un témoignage recueilli par Étienne Baudu. Et ce matin, 8 départements restent en vigilance orange, dont le Gard, où de nouvelles pluies sont attendues ce matin. Une navette spatiale sans astronautes. Les premiers touristes spatiaux de SpaceX vont décoller ce soir de Floride, mais aucun professionnel à bord. Juste un milliardaire américain qui a affrété la mission à ses frais et 3 anonymes. Ils vont passer 3 jours en orbite autour de la Terre. Le foot, Lille a raté son entrée en Ligue des Champions. Match nul 0-0 à domicile face aux Allemands de Wolfsburg. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, d'où les regret de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec.
On s'est mis en mode coupe européenne et il fallait ça, il fallait une équipe dense, forte défensivement, ce qu'on a été. Petite chose qu'on peut se reprocher, c'est de ne pas avoir bien fini nos actions ou mieux fini nos actions. Ce soir, je pense que ça se joue à quelques centimètres.
Jocelyn Gourvennec. Ce soir, c'est le PSG de Lionel Messi qui entre en lice à Bruges, en Belgique. Match à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h. Et puis une info qui m'a donné le vertige, Yves. La grande roue la plus haute du monde ouvrira en octobre à Dubaï. Elle fait, devinez combien ?
Je sais pas.
Plus de 250 mètres. La High Roller de Las Vegas peut aller se raviller, c'est encore
ouh là là.
Plus.
Bon, c'est très 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 impressionnant, j'ai déjà le tournis. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, on va parler de Lionel Messi, de son enfance en Argentine et de son père, un gars pas causant, vous allez voir.
Avec curiosité, à tout à l'heure Isabelle. Dans un instant, François Langlais, 13 ans jour pour jour après la faillite de la banque Lehman Brothers, François va nous dire que la prochaine crise est peut-être proche.
Merci. RTL Matin, Yves Calvi.
7h35, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il y a exactement 13 ans, aujourd'hui même, le 15 septembre 2008, c'était la faillite d'une grande banque new-yorkaise, The Lehman Brothers, oui. Qui allait déclencher en fait une véritable crise mondiale.
C'est vrai, les faillites à Wall Street se sont alors multipliées dans une sorte d'effet domino. Et quelques jours plus tard, les gouvernements du monde entier étaient contraints de garantir nos dépôts bancaires de façon à éviter une panique comme dans les années 30. L'Europe a mis plusieurs années à se remettre de la crise économique qui a suivi.
Bah alors justement, a-t-on tiré les leçons de cette crise, François, de façon à ce qu'elle ne se reproduise plus ?
Écoutez, en apparence seulement, on a réglementé de façon sévère les banques occidentales pour limiter leur prise de risque, ça c'est vrai. Le problème, c'est que ce risque s'est déplacé en dehors des banques. Vous savez, les régulateurs ont toujours un temps de retard parce qu'ils s'attaquent aux endroits où la précédente crise a éclaté. Justement les banques, en 2008. Mais ils ne voient pas où éclatera la prochaine.
Pardonnez-moi, mais vous parlez de la prochaine comme si elle était certaine.
Elle est probable. Hein. Personne ne peut sérieusement la dater avec précision. C'est dans 5 jours ou dans 5 ans. Parce qu'il faut toujours distinguer dans une crise le déclencheur. C'est une faillite, une guerre locale au bout du monde, un gouvernement qui tombe, un événement accidentel, dont la survenue est par nature imprévisible. Et puis, de l'autre côté, les dangers de long terme qui s'accumulent, qui eux sont visibles. Ce sont ces derniers qui donnent sa puissance à la crise. Le déclencheur, c'est l'allumette sur une bonbonne de gaz.
Mais alors, où sont-ils ces dangers aujourd'hui ?
Il y en a un, c'est l'extraordinaire accumulation de dettes dans le monde, qui supposerait une croissance forte dans les années qui viennent pour être remboursée. Alors que la planète vieillit, alors que le changement climatique peut nous obliger à réviser la façon de produire, de consommer, il y a là une contradiction. Ces dettes, ce sont celles des États, bien sûr. À cause de la crise sanitaire, les États ont dépensé 15 à 20 000 milliards d'euros. C'est 8 fois le PIB annuel de la France, en quelques mois. Oui. Ces dettes sont par exemple aussi dans l'immobilier chinois, qui commence à montrer des signes de fragilité. Il y a encore des épargnants ruinés manifestés à Shenzhen, dans le sud de la Chine, à cause de la faillite d'un gigantesque promoteur surendetté. En fait, les dettes sont partout.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. Les taux d'intérêt sont très bas, ce qui rend la dette supportable, non ?
C'est vrai. Non, c'est tout à fait vrai. Les banques centrales maintiennent ce prix du crédit très bas, autour de zéro. Mais la question d'après, c'est est-ce que c'est durable ? Si l'argent est gratuit, les entreprises, les États, les financiers prennent de plus en plus de risques.
Bah oui.
Et on augmente alors la probabilité de la crise alors qu'on voulait la faire diminuer. En fait, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de vaccin contre l'imprudence, contre l'espoir du gain. La leçon de Lehman, la vraie leçon de Lehman, 13 ans plus tard, c'est qu'il n'y a pas de leçon des crises. L'histoire économique est ponctuée d'épisodes de panique et de reprise, parce que le déterminant fondamental de ces alternances, c'est la psychologie des hommes, leurs illusions, leurs excès, suivis par leurs peurs qui sont tout aussi excessives. Et pour conclure, la modernité ne nous protège en rien de ces travers, parce que s'il y a peu de chances pour que nous soyons plus bêtes que les générations précédentes, il y a aussi peu de chances pour qu'on soit plus intelligent.
Il n'y a pas de leçon des crises, c'est donc la leçon à retenir ce matin. Merci beaucoup François Langlais.
Yves, on peut retrouver l'histoire de Lehman Brothers chez Flavie Flamand ce soir, qui consacre son émission à cet anniversaire, et c'est une émission dans laquelle on apprend comment tout ça s'est passé.
Rendez-vous est pris dès 20h sur RTL. Et on retrouve aussi votre podcast Langlais Co hors série. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Il est 7h39.
Gérald Darmanin est notre invité, le ministre de l'Intérieur. Le président lui a confié la mise en œuvre d'une grande loi de programmation pour la police. Quand sera-t-elle mise en œuvre, justement ? C'est la grande question.
A tout de suite avec le ministre de l'Intérieur.
Sur salonvdl.com.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Avant d'en venir au discours du président devant les policiers à Roubaix hier, vous avez fait un aller-retour dans la soirée, dans le Gard. Vous avez d'ailleurs déclaré l'état de catastrophe naturelle. La situation est pas encore stable ?
Elle n'est pas encore stable parce qu'il y a encore une personne officiellement disparue, même si de nombreuses personnes disparues hier ont été retrouvées, fort heureusement. Elle n'est pas encore stable parce qu'il y a encore des milliers d'habitants qui n'ont pas d'électricité, et puis parce qu'il y a encore sans doute beaucoup de prévisions orageuses dans les heures qui viennent. Et je veux le dire aux habitants du Gard, de l'Hérault, du sud-ouest de la France, de faire extrêmement attention aux messages officiels du gouvernement, des pompiers, des collectivités locales, et de se mettre en hauteur si jamais les choses dramatiques devaient arriver, puisqu'on évoque ces passages orageux.
Venons-en à présent aux annonces du président. Donc hier à Roubaix, Emmanuel Macron est venu clore le Beauvau de la sécurité qui avait été mise en place pour calmer la colère des policiers. Alors il y a les annonces, bien sûr, Gérald Darmanin, de court terme. Mais à quoi bon annoncer une grande loi de programmation pour la police si cette loi ne peut pas être votée avant la fin du quinquennat ?
Non, mais d'abord, le président de la République, il a annoncé énormément de choses extrêmement concrètes ici et maintenant. Alors, d'abord, un passé de 4 ans extrêmement fort sur le champ de la sécurité, j'y reviendrai, mais surtout 1,5 milliard d'euros de budget pour le budget 2022, c'est-à-dire pour les mois qui viennent, celui que je suis en train de construire avec le ministre des Comptes publics. Ça veut dire 11 000 véhicules, c'est-à-dire que nous allons changer les 3/4
des
véhicules de police et de gendarmerie avant l'élection présidentielle, si vous prenez cette échéance, ce que vous avez l'air de prendre, évidemment.
Mais parce que vous assumez enjamber la présidentielle. Non, mais je vous ai entendu, vous l'avez dit au Sénat d'ailleurs.
Non, mais le ministre de l'Intérieur, il est, comme tous les ministres, sans doute dans l'urgence. Le ministère doit être dans le temps long. Il n'y a pas eu d'organisation, de pensée de l'organisation du ministère de l'Intérieur depuis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ce qu'on appelle une loi d'orientation de la sécurité intérieure. Ça fait 20 ans quand Nicolas Sarkozy a imaginé l'arrivée de la vidéosurveillance dans les collectivités locales. Ça date. Aujourd'hui, nous avons affaire à des dangers absolument nouveaux. Le cyber, les nouvelles formes de terrorisme, la délinquance numérique, les crypto-monnaies, les messageries cryptées, tout ce qui empêche aujourd'hui les policiers et les gendarmes d'être plus efficaces dans la lutte contre ceux qui maltraitent les enfants, dans la lutte contre la drogue, dans la lutte contre le terrorisme. Et nous devons penser le temps long du ministère. Donc le président, il a fait deux choses.
Oui,
il
mais vous disiez justement, la sécurité, c'est aussi une urgence. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Les syndicats de policiers disent eux-mêmes, on voit que le temps de la campagne a commencé.
D'abord, les syndicats de policiers, je les en remercie, ont été extrêmement laudatifs sur le discours du président. C'est assez rare pour être souligné. Deuxièmement, moi je constate depuis 4 ans, tout ce qui a été fait par le président de la République, et je n'en ai pas été le ministre de l'Intérieur, mais j'ai été son ministre des Comptes Publics. J'ai vu tout ce qui a été dépensé pour la police et la gendarmerie. Et il y a eu 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Aujourd'hui, il y a plus de monde dans chacun des commissariats de France que quand le président de la République est arrivé. C'est extrêmement concret, Madame Ventura. Il y a eu un changement, je l'ai fait quand j'étais ministre des Comptes Publics puis ministre de l'Intérieur, très important pour 700 commissariats et brigades de gendarmerie qui ont été entièrement rénovés. Il y a eu des organisations, notamment la lutte contre le terrorisme. 36 attentats déjoués parce qu'on a mis en place la coordination du renseignement, parce qu'on a recruté 1900 personnes à la DGSI et aux renseignements territoriaux. Il y a eu énormément de travail qui a été fait depuis 4 ans. Mais comme disait le président Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on va vite et à la fin on accélère.
Vous savez, ben deux fois que vous citez Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron fait du Sarkozy.
J'ai trouvé que, très différemment, chacun dans son style, mais j'ai trouvé que le discours du président de la République s'inscrivait dans les grands discours républicains de M. Jox, de M. Sarkozy et de lui-même. Dans c'est quoi la police dans 10 ou dans 15 ans? Il y a l'urgence, ça c'est le travail du ministre de l'Intérieur, et il y a le temps long. Et ça, c'était le temps du président de la République.
Alors, la volonté, c'est de doubler les effectifs de police en 10 ans. Donc, vous avez parlé des 10 000 policiers. Une réserve de la police, 30 000 policiers. C'est quoi cette réserve? C'est la même que la gendarmerie? À quoi seront-ils affectés?
Exactement. Donc la gendarmerie nationale a ce qu'on appelle une réserve opérationnelle, c'est-à-dire des boulangers, des professeurs, des journalistes qui, indépendamment de leur métier, donnent plusieurs jours par mois à la gendarmerie et vont les aider. Ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Elle n'existe pas pour la police nationale. Elle existe un peu pour les retraités de la police nationale, mais pas pour les citoyens. Et dans la réconciliation qu'il peut y avoir, moi je ne pense pas que la population soit fâchée avec la police, mais dans cette réconciliation nationale, il y a l'idée de cette réserve opérationnelle. Nous le portons dans la loi qui est aujourd'hui au Parlement. Donc c'est ici et maintenant très concret. Et demain, ceux qui voudront s'engager, et ce sera thématisé pour ceux qui le souhaitent, dans la lutte des violences faites aux femmes, contre les enfants, pour lutter contre un certain nombre de méfaits qui touchent chacun d'entre nous, et bien vous pourrez vous engager, donner des jours dans la police nationale. Alors en uniforme et pas en uniforme. Ça peut être dans les bureaux, ça peut être à l'écoute téléphonique.
Vous croyez qu'on va s'engager quand on voit que la délinquance ne baisse pas?
Mais la délinquance, elle baisse. Le président de la République.
Les cambriolages baissent, les homicides ne baissent pas.
Attendez, vous avez des choses qui augmentent ou qui sont difficilement, c'est dur de lutter contre elles. C'est le cas effectivement des violences contre les personnes,
oui,
et notamment
les
violences intrafamiliales, donc contre les enfants ou contre les femmes, c'est vrai. Sans doute dû à la liberté de la parole désormais, mais c'est vrai. Et nous devons nous dire que nous devons faire mieux là-dessus. Vous avez beaucoup d'indicateurs de la délinquance, comme on dit aujourd'hui, qui baissent. Il y a beaucoup moins de voitures volées qu'avant. Il y a beaucoup moins de voitures brûlées qu'avant.
Vous reconnaissez que les homicides ne baissent pas?
Alors, les homicides restent en moyenne à peu près à 900 depuis 10 ans. Et donc, c'est effectivement une question à laquelle il faut que nous posions. Or, attentat, c'est vraiment important d'évoquer que partout dans les pays occidentaux européens, ces homicides ne baissent pas. Et donc, on doit continuer à travailler autour de la lutte contre les personnes, la lutte contre les violences faites aux personnes.
Sur le front du trafic de drogue, je pense à Marseille, on entendait ce matin le reportage d'Alice Moreno. C'est un phénomène en pleine explosion. Il y a encore eu un règlement de compte lundi soir, deux semaines après votre venue avec le président de la République. Ne s'arrêtera jamais en fait, on est impuissant.
Le phénomène de grande explosion, c'est celui de la lutte contre la drogue auquel nous apportons des coups définitifs.
En est où de l'enquête là?
Alors d'abord, il y a deux fois moins de règlements de compte aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. Et ces règlements de compte sont toujours le thermomètre de l'activité de la police et de la justice. Parce que quand les gens sont arrêtés, des trafiquants qui, je l'ai déjà expliqué ici, font du commerce avec 100 000 euros de points de deal par jour. Quand ils sont arrêtés et sont mis en prison, d'autres essayent de prendre leur territoire. Et ces règlements de compte sont parfois commandés de ces prisons. Et pour plein de raisons, le travail fait par la police, par la gendarmerie, par la justice en ce moment est extrêmement efficace dans les cités, notamment dans les cités de Marseille. Et ces règlements de compte sont des règlements entre trafiquants. Nous les regrettons évidemment, mais ils sont toujours aussi le thermomètre de l'activité de la police.
Monsieur le ministre, ce que réclamaient les policiers, c'était aussi plus de simplification dans leur travail. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut étendre ce qu'on appelle les amendes pénales forfaitaires. Sauf qu'il y a 6 amendes sur 10 qui ne sont pas payées.
Alors c'est faux. C'est faux parce que l'amende forfaitaire pénale pour la drogue, 100 000 qui ont été mis, d'abord.
Pour la drogue ?
Oui, parce que c'est celle qu'on a mis.
Il y a 40% des amendes qui ne sont pas recouvertes.
Non, mais elles ne sont pas recouvertes dans la première instance. C'est-à-dire que quand vous avez une amende, madame, quelle que soit cette amende, une amende routière, soit vous la payez tout de suite, soit vous êtes relancé. Dans un délit routier, quand j'étais ministre des Comptes publics, j'étais en charge des impôts, seuls 30% des gens qui avaient une amende routière la payaient systématiquement. Puis ensuite, vous avez une relance de la part des impôts. Et bien avant la relance, l'amende stup, l'amende contre consommation de stup, aujourd'hui, elle est payée à effectivement 50%. C'est-à-dire qu'elle est l'amende la mieux payée de toutes les amendes que nous mettons. Et puis ensuite, il y a la relance par le Trésor public. Chacun sait que ça prend du temps. Cette amende, madame, on l'a mise en place il n'y a même pas 9 mois. Donc elle marche bien. Et c'est une amende pénale. C'est-à-dire qu'elle est en plus sur votre casier judiciaire. Et c'est extrêmement important.
Emmanuel Macron avait aussi annoncé une réforme de l'IGPN. Alors cette fois, on parle du contrôle des policiers. Et finalement, ce sera une délégation de parlementaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des députés, des sénateurs de tous bords politiques qui vont contrôler, qui vont faire le boulot de l'IGPN, la police des polices. En quoi ils sont légitimes, ces élus ?
Alors non, ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui n'avaient pas entendu le président de la République. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, je veux le dire, sont les personnes les plus contrôlées de tous les agents publics. C'est sans doute normal, puisqu'ils ont la force avec eux. Enfin, c'est quand même à souligner. 7%, c'est le nombre de policiers que représentent dans le total des fonctionnaires, représente 55% des sanctions de tous les fonctionnaires. Il n'y a pas un corps plus contrôlé, plus suivi que les policiers. Il y a plusieurs façons de les contrôler. Il y a l'IGPN ou l'IGGN, c'est-à-dire ceux qui s'occupent en interne du contrôle de la police ou de la gendarmerie. Il y a évidemment la défenseur des droits, autorité administrative indépendante. Il y a la judiciaire, bien évidemment, qui
s'est saisie. Et donc on ajoute une délégation d'élus.
Et nous, d'abord, nous ne changeons pas, c'est, je veux dire, très important, le travail de l'IGPN, qui est de belles structures qui agissent au nom de la justice et qui sont dépendants du directeur général et dont le président de la République.
Mais c'est parce que vous voulez plus de transparence, c'est parce que vous voulez publier tous les rapports.
Qu'est-ce qui se passe ? Mais nous publions tous les rapports désormais.
Disciplinaires.
Tous les rapports.
On va savoir du début à la fin comment
tous les rapports seront désormais publiés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Comme
c'est
ça,
anonyme.
Chacun pourra le constater, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes, et qu'on n'a rien à cacher dans la police, rien à cacher dans la gendarmerie, et qu'on doit prendre très rapidement, plus rapidement peut-être, les propositions de sanctions. Désormais, sous un mois, avant, il n'y avait pas de délai. Mais le Parlement, on n'a rien à cacher au Parlement. Une grande démocratie doit montrer que l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, le premier, peut répondre à toute question des parlementaires. Dès qu'il y a un problème, on l'a vu dans l'affaire Zecler, on l'a vu dans l'affaire des problèmes des Gilets jaunes, on l'a vu dans les attentats.
Un tir de LBD.
Il y a des commissions d'enquête parlementaires qui se créent comme ça, ex nihilo. Ben nous proposent, comme dans la délégation parlementaire au renseignement, c'est-à-dire des parlementaires qui contrôlent les services de renseignement, qui est une délégation parlementaire qui soit ad vitam en charge des forces de l'ordre.
Gérald Darmanin, la France est un État négrier. Ça, c'est le responsable de la Ligue de défense noire africaine qui l'a affirmé sur un plateau de télé après des incidents dans la commune de Val-de-Reuil. Vous avez annoncé engager la dissolution de cette association. Ce sera fait quand précisément ?
Nous avons lancé, donc la notification a été faite hier. Il y a 15 jours, dit le droit, pour avoir un contradictoire, c'est-à-dire pour qu'ils puissent donner leur propre vision des choses. Et donc, dans le troisième Conseil des ministres qui suivra ce contradictoire, c'est-à-dire dans 3 semaines, je proposerai au président de la République et au Conseil des ministres la dissolution de la Ligue de défense, dite de défense noire.
Et ce sera fait dans la foulée ?
Ce sera fait dans la foulée. Vous savez, comme on l'a, j'ai pas eu la main qui tremble à la demande du président de la République sur tous les autres sujets. Beaucoup d'associations racistes, xénophobes, antisémites, islamistes vivaient dans notre sol. Et je constate que le Conseil d'État nous a toujours suivi quand on a fait ce choix très dur.
Gérald Darmanin, rapidement, vous êtes ravi de vous appeler Gérald ou vous auriez préféré Moussa, votre deuxième prénom ?
Alors, je vois à peu près à quoi vous voulez faire allusion. Moi, je suis très heureux du prénom. Du prénom que m'ont donné mes parents.
Mais ça a été un sujet entre vos parents ? Gérald, c'était mieux pour s'intégrer ?
Avant de naître, je n'étais pas forcément au cœur des débats.
Mais vous avez pu en parler avec eux.
Mais je suis très, très fier que mon...
C'était pour s'intégrer ?
Je suis très fier que mon deuxième prénom soit Moussa. Mon grand-père était harki. Il s'est battu en 1940 pour la France. Il a libéré, notamment les eaux, des Allemands. Et dans 3 semaines, j'ai l'honneur d'inaugurer une rue à son nom. Adjudant-chef Moussa Wakid, 14e tirailleur algérien. Je ne vois pas ce qu'on peut être plus français qu'un français de volonté.
Merci Gérald Darmanin.
Monsieur le ministre, vous restez avec nous, car dans quelques minutes, ce sont les auditeurs d'RTL qui vous poseront leurs questions au 32-10, 50 centimes la minute, et 64-900, code matin. Vous qui nous écoutez, votre vie quotidienne, les trafics en bas de chez vous, toutes vos questions en matière de sécurité, avec bien entendu le ministre de l'Intérieur. Et puis, dans un instant, vous allez tout simplement vous retrouver dans l'œil de Philippe Cavrivière. Bonne chance à vous.
Règlement sur toyota.fr. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe, bonjour.
Oui, bonjour. Gérald Darmanin reste donc pour votre chronique.
Bien, c'est fort aimable et je tiens à le rassurer tout de suite par rapport au discours de Macron d'hier. Ma chronique fait en gros une bonne heure de moins. Bien le discours hier, mais long. Oh, pop, 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 pop. Cela dit, vous avez bien fait d'y aller. Le président vous a fait plein de compliments. Et Darmanin, il est super. Et Darmanin, il avait été très bon pour le prélèvement à la source. J'avais oublié, c'était vous. Du coup, je pense à vous tous les mois avec le prélèvement et c'est vrai que vous ne m'oubliez jamais. Ça me fait du bien de savoir que le gouvernement pense à moi mensuellement.
Oui, c'est plaisant.
Mais heureux.
Le président Macron a déclaré vouloir plus de bleu sur le terrain.
Oui, il a fait « Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux ». Alors, il est bien gentil, hein, mais il faut motiver les futurs policiers. Parce que pour l'instant, c'est plus dangereux d'être un flic en banlieue que d'être une femme en crop top sur Kaboul Centre.
Justement, à propos de motivation, Emmanuel Macron a prévu des hausses de budget ainsi que de nouveaux uniformes pour nos policiers.
Mais voilà ce qui n'allait pas. C'était pas le manque de moyens ou d'effectifs, c'était le look, le style. Fini le polo bleu, le calot et le petit badge tricolore. Place au nouvel uniforme. Le style est là, l'audace est présente. Le polo se décline sur des matières qui mettent en valeur le corps de nos fonctionnaires de police. On passe d'un uniforme bleu marine à un uniforme bleu cobalt. Bon, enfin, c'est un polo bleu, quoi. En même temps, c'est le Beauvau de la sécurité, c'est pas la Fashion Week. Puis c'est Gérald Darmanin, c'est pas Christina Cordula.
Alors, Emmanuel Macron a reçu les athlètes paralympiques, le chef de l'État a félicité nos sportifs, mais a également déclaré le bilan des Jeux n'est pas tout à fait ce que nous attendions, on doit faire beaucoup mieux.
Mais oui, et ça c'est tout notre Emmanuel Macron, il engueule tout le monde pareil, et ça c'est super. Ses ministres, les chômeurs, les handicapés, ça, vous êtes très sympas les handicapés, mais être sympa ça fait pas gagner des médailles.
Non.
Va falloir courir un petit peu plus vite. Alors oui, sans jambes c'est pas facile. Mais je déteste cette culture de l'excuse franco-française. Et hop, on fait un effort. C'est Emmanuel.
Mais oui. Alors, autre sujet d'actualité, la promesse d'Anne Hidalgo de doubler les salaires des enseignants, très commenté.
Ah oui, alors les policiers auront des nouveaux polos, oui. C'est bien, mais moins que les profs qui auront un salaire multiplié par deux. Et du coup, ils pourront s'acheter plein de nouveaux polos. Alors, bien sûr, les esprits chagrins vont lui poser la question du financement à Anne Hidalgo. Ah ben, j'y réponds pour elle. Hein. Voilà. Ce sera financé. Avec des sous, voilà, je remplace François Langlais quand je veux. Pas très compliqué l'économie, hein.
Bon, non. Alors, un mot de culture pour finir. Vous vouliez nous parler de cette magnifique statue
magnifique.
En hommage à Johnny Hallyday.
Vous avez vu la statue pour Johnny. Alors, c'est une Harley bleue métallisée, suspendue à un manche de guitare marron. Ça fait 6 mètres de haut. C'est une sculpture qui symbolise un peu un accident de la route, vu qu'on a l'impression que la moto est dans l'arbre. À la limite, pour Coluche, aurait été bien. C'est spécial. Bah, disons que ça va avec Paris. Non, mais on sent que depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, Hidalgo n'en a plus rien à cogner de Paris. Vous voulez foutre du sopalin sur l'Arc de Triomphe ? Allez-y, faites-vous plaisir. Emballez-moi ça. Alors, j'ai appris tout ça en regardant BFM. Yves Calvi recevait Laetitia Hallyday dans Calvi 3D. Mmh. C'est plus BFM, c'est 50 minutes inside. Et c'est plus Calvi, c'est Nico Saliagas. Alors ça s'est bien passé avec, entre Laetitia et vous. Ça matchait, j'ai trouvé. Si elle vous invite à boire un cocktail avec Johnny sur sa tombe, c'est pratique, ça fait table basse, c'est très bon signe. Ça sent les vacances de Noël à Saint-Barth, Yves. Hein,
je vais y réfléchir. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 et en direct. Et quand vous le voulez, vous le savez sur le site RTL.fr. Monsieur le ministre, on vous retrouve à 8h20 tout à l'heure pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Notre météo, Louis Bodin.
Oui, avec encore à surveiller ces orages. Hein. Alors ça s'est calmé ce matin dans le Languedoc, mais malheureusement cet après-midi, il y a de nouveau un risque d'orages et d'orages violents sur le Languedoc, peut-être également autour de la vallée du Rhône remontant vers la région Rhône-Alpes. C'est là où on attend les plus fortes intensités de pluie, d'orage, de grêle, voire de rafales de vent. Alors plus généralement dans ces régions du sud et de l'est, on conservera un temps instable avec des nuages, de la pluie, beaucoup de pluie en ce moment autour du Massif central. Et puis au nord du Lignes quand même, Bordeaux-Metz, là ça devrait être un peu plus calme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'averse, hein, il y en aura également, mais sans orage et avec un peu plus d'éclaircies notamment près de la Manche. Les températures baissent, mais restent convenables pour la période. 20 à 23 degrés dans la moitié nord, 23 à 28 dans le sud et 30 degrés même encore attendus à Marseille. Et Bastien.
La météo est au cœur de notre actualité, mais heureusement Louis Bodin est avec nous, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et bien justement, une personne est toujours ce matin portée disparue dans le Gard après le déluge qui s'est abattu hier sur le département.
Il est tombé par endroits l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en 3 heures seulement. Des petits ruisseaux transformés en torrents. Et l'on redoute ce matin de nouveaux orages. Nous serons sur place. Vaccinés ou renvoyés, les professionnels de santé n'ont désormais plus le choix. On estime à 300 000 le nombre de soignants n'ayant reçu aucune injection. La France, numéro 1 mondial de la prothèse auditive. Notre pays sera d'ici la fin de l'année le mieux équipé, notamment grâce au zéro reste à charge. La Ligue des Champions et Paris qui entame ce soir la compétition avec un statut d'ultra favori. Et puis nous vous dévoilerons la recette secrète d'Apple pour vous vendre l'iPhone toujours plus cher avec, pour la marque, des marges excessivement confortables.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
On poursuit le point mode avec le look automne-hiver 2022 du policier.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Une autoroute transformée en fleuve en quelques minutes seulement. Des centaines d'automobilistes piégés dans leurs véhicules, les portières bloquées par la force du courant. Ce conducteur venait de s'engager hier sur la 9 entre Nîmes et Montpellier.
L'eau allait monter, on n'a plus vu la barrière de sécurité, on a commencé à s'inquiéter. La voiture a commencé à soulever, à partir. Donc bah nous on a pris ce qu'on pouvait, nos affaires, et puis on s'est sauvés parce qu'après elle s'est retournée. Nous on était trois dans la voiture, j'ai dit au collègue derrière prends les sacs, prépare-toi. Moi j'ai éteint le contact, on est sorti par les fenêtres parce qu'on pouvait plus voir les portes. On a vraiment eu peur, ouais.
Un témoignage recueilli par nos confrères d'M6 pour vous donner une idée de la puissance de cet orage. Le Rony, qui est un petit ruisseau qui traverse le département du Gard, est passé de 40 cm d'eau à 4,5 m en 3 heures seulement. Une personne, probablement surprise par cette montée des eaux brutales, est toujours ce matin portée disparue. Louis Baudin, ces orages violents sont assez classiques en cette période. Le Gard en a tristement l'habitude, mais cette fois, l'intensité est véritablement exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle, hein, effectivement, puisqu'on a eu jusqu'à 250 mm de pluie parfois en moins de 3 heures. Donc évidemment, là, les sols saturent très très rapidement. Et puis tout ça est amplifié, aggravé par la situation urbaine. Hein. Quand on parle de l'autoroute, ben, elle est tout simplement en travers de l'écoulement naturel. Donc forcément, ça aggrave encore l'accumulation et donc le risque d'inondation.
Merci Louis. On va rejoindre sur place Patrick Tégéro parce que Météo France conserve, entre autres, ce matin, le département du Gard en vigilance orange. Patrick, j'imagine que les habitants redoutent cette reprise des intempéries.
Oui, tous savent ici que le ciel reste menaçant, d'autant que les stigmates du déluge d'hier ne sont pas prêts de disparaître. Des voitures renversées dans les fossés, des chemins encore coupés. Monique Bourdiot, par exemple, n'a pas pu rentrer chez elle hier soir.
Il y avait beaucoup d'eau chez moi, donc les chemins impraticables. J'ai dormi chez une camarade qui habite à côté. Et je ne sais pas si ce matin je pourrais aller voir aussi, parce que apparemment il y a encore beaucoup d'eau dans les chemins. J'ai mon mari quand même qui est à la maison et il m'a dit qu'il y a de l'eau, mais il y a eu pire. Enfin voilà. Mais je pense qu'il y a des personnes dans le village qui sont beaucoup plus que moi. L'étendue des gars, on va le savoir ce matin.
Monique est adjointe au maire de Bernice. Elle est chargée des affaires sociales. Alors après 2 heures de sommeil seulement, elle va mettre en place des secours d'urgence et organiser la solidarité avec l'équipe municipale. On va continuer à nettoyer les rues et les rez-de-chaussée en espérant que de nouvelles pluies ne ruinent pas tous ces efforts.
Merci Patrick Tégéro dans le Gard pour RTL. Invité de RTL ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a confirmé que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré dès la semaine prochaine et appelle tous les habitants à faire attention pour la suite de la journée.
Il est 8h04, ils sont donc environ 300 000 professionnels de santé qui, jusqu'au bout, auront décidé de refuser le vaccin.
Aides-soignants, infirmiers, médecins, mais aussi agents d'accueil, secrétaires médicaux, ils travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD et faute d'avoir obtenu au moins la première dose, ils risquent tous ce matin une mise en repos forcée, voire même une suspension de salaire. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour.
Vous êtes à l'hôpital de Roubaix dans le Nord, alors plutôt bon élève en matière de vaccination, elle concerne plus de 95% des soignants chez vous, mais face aux quelques réfractaires, il a tout de même fallu s'adapter.
Oui, ici, devant l'entrée principale de l'hôpital Victor-Provost, où quelques-uns des 3400 agents prennent leur poste. Pas de contrôle des passes sanitaires comme au restaurant. Hein. C'est dans les services que les cadres vérifient que tous ces soignants sont en règle. Et les derniers réfractaires au vaccin ne sont pas inscrits au planning pour éviter encore certaines tensions, nous a confirmé Maxime Morin, le directeur.
Normalement, il n'y a que 10 ou 15 situations vraiment de refus de vaccination pour lesquelles on va leur remettre aujourd'hui la mesure de suspension, effectivement s'assurer qu'ils ne travaillent pas. Et puis on avait quelques hésitants ou quelques agents pour lesquels on n'avait pas cette information. Chaque cadre de terrain a reçu sa petite liste et puis va vérifier à la prise de poste. Ça va être évidemment plus compliqué dans des services où il peut y avoir déjà des difficultés, hein, des effectifs. Peut-être effectivement des agents partiront. Oui, c'est quelque chose qu'on regrette.
croisé tout à l'heure une jeune infirmière de nuit qui s'est finalement résignée à cette injection à la dernière minute. Selon un agent délégué CGT, les premières suspensions ont déjà été reçues. Restent quelques cas particuliers à gérer, notamment pour les femmes enceintes ou qui allaitent.
Merci beaucoup Franck Hanson en direct de Roubaix pour RTL. Voilà pour l'hôpital donc. Mais les soignants ne sont pas les seuls concernés par cette obligation vaccinale.
Non, d'autres métiers ont effectivement dû s'y plier avec plus ou moins d'enthousiasme. On fait le point ce matin avec la brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
On commence avec les pompiers.
Alors, ils sont environ 200 000 en France, hein, 50 000 professionnels, 150 000 volontaires. Eh bien, 90% devraient être à jour ce matin. C'est une moyenne. Chez les pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille, par exemple, 96% sont vaccinés. Et en Mayenne, sur les 115 pompiers professionnels, un seul a posé un congé paternité. Pas d'inquiétude dans les casernes pour la Confédération nationale des services d'incendie. Les secours seront bien assurés.
En revanche, c'est beaucoup plus tendu chez les ambulanciers.
Oui, car en fait, la profession tire sur la corde depuis des mois, avec déjà un fort taux d'absentéisme dans les 5000 entreprises. Entre 5 et 13% des 60 000 ambulanciers ne sont pas vaccinés, selon les différentes sources. Il manquera donc encore plus de bras, entre 3 et 8 000 personnes en moins. Conséquence concrète, il faudra faire des choix. Il y aura toujours une ambulance, bien sûr, hein, pour accompagner un patient à sa chimiothérapie ou à sa séance de rééducation, mais pas forcément pour un rendez-vous chez le dentiste ou l'ophtalmo.
On termine avec les aides à domicile.
360 000 salariés entre les associations et les entreprises privées. Là encore, entre 5 et 10% de réfractaires à la vaccination, soit 18 à 36 000 personnes de moins. Résultat, des cadres administratifs vont quitter leur bureau pour aller au domicile des personnes malades ou âgées. Ceux et celles qui travaillent feront plus d'heures. En revanche, impossible de prendre de nouveaux clients, de nouvelles familles. Autrement dit, on risque de vous dire non si vous avez besoin d'une aide à domicile pour votre père ou votre mère. Impossible, il n'y a plus assez de personnel.
Les brigades RTL étaient signées ce matin. Sophie Orange. Il est 8h07, pardonnez-moi. Plus de terrain, moins de paperasse. Mais comment nous pourrions ce matin résumer la promesse faite hier par Emmanuel Macron aux policiers?
Oui, le chef de l'État qui veut voir davantage de bleu, c'est son expression. Comprendre plus de policiers, de gendarmes sur le terrain, c'est leur mission première. Et moins dans les bureaux à perdre leur temps dans des tâches administratives. Il promet par ailleurs de créer des postes de greffiers pour tenter justement de résorber le stock de dossiers en attente. Car c'est un fait, tous les commissariats sont concernés. Il y a de moins en moins d'attrait pour la partie judiciaire, la partie enquête. Expliquez-nous, Guillaume Chiez, les raisons de ce désintérêt.
Eh bien, beaucoup d'enquêteurs sont découragés par le retard abyssal que peuvent prendre certains dossiers. Dans un service pour mineurs d'une grande ville de France, par exemple, ce ne sont pas moins de 500 dossiers qui sont en attente, dont plus de 150 pour viol. Dans un autre commissariat, là où 8 enquêteurs géraient 400 dossiers par an, ils sont aujourd'hui 5 pour le double de cas. Emmanuel Macron a annoncé hier la création de postes de greffiers pour tenter de combler ce retard. Mais les grands patrons de la police que nous avons contactés nous confirment que les causes de cette désaffection pour le métier d'enquêteur sont plus profondes. Horaires à rallonge, manque d'encadrement, de formation. Les plus touchés sont les commissariats qui traitent les affaires courantes, notamment en région parisienne. Les services prestigieux de la police judiciaire qui luttent contre le banditisme ou le trafic de stupéfiants sont, eux, encore épargnés par ce phénomène.
Guillaume Chiez pour RTL. Le litre de carburant s'affichera-t-il bientôt dans les stations-service à 2 euros. On s'en rapproche. La reprise économique fait exploser la demande de pétrole et augmenter le prix du baril. RTL a fait les comptes. Si vous roulez en Citadine, Clio, Peugeot 208, en un an, votre budget carburant aura augmenté de 240 euros pour un diesel et jusqu'à 300 euros pour un véhicule essence.
Dans un instant, la France championne du monde des prothèses auditives. On en parle dans un tout petit instant. C'est pas mal pour écouter.
Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL Matin.
Tu savais pas, à chaque fois que je dois y chercher.
Il est 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Notre pays pourrait donc devenir d'ici la fin de l'année le mieux équipé au monde en matière de prothèses auditives.
Oui, il faut dire que leur remboursement intégral mis en place depuis le début de l'année dans le cadre de la réforme 100% santé a largement contribué à faire exploser les ventes. 68% de plus l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les mentalités également ont évolué. Se faire appareiller aujourd'hui est devenu un acte presque banal. Reportage dans ce cabinet parisien, Pierre Herbulot.
Ces fréquences sonores, Odile les entend de plus en plus mal depuis 4 ans.
Pour la musique, soit j'ai beaucoup trop d'aigus, soit j'ai trop de batterie.
Philippe Medger, audioprothésiste, lui installe des petits appareils dans les oreilles.
Comme un accent aigu,
joliment.
Ah, c'est nickel. Là, c'est nickel.
Voilà, c'est tout ce qu'on veut.
Grâce au 100% santé mis en place depuis le début de l'année, la retraitée n'a pas à débourser le moindre centime pour ses prothèses. 1500 euros d'économie environ, déterminant.
Je trouve que c'est super, bien sûr. Ah ben oui, ça pour une bonne nouvelle, c'est sûr que c'est très très bien, oui. Ça ne court pas les rues, les trucs qui sont remboursés à 100%.
Cette disparition de la barrière prix a eu un effet immédiat sur l'agenda du praticien.
On voit venir à nous des gens qu'on n'aurait jamais vus. Hein. Globalement, on estime à peu près à 50% l'augmentation de la patientèle entre l'année dernière et cette année.
Une aide sans condition de ressources qui devrait permettre à 300 000 Français de s'équiper gratuitement d'ici la fin de l'année. Et donc, comme Odile, de beaucoup mieux entendre Léo Ferré.
Des conquêtes, joli môme.
Un reportage signé Pierre Herbulot. Quatre humains n'ayant jamais été dans l'espace auparavant, peuvent-ils passer trois jours seuls en orbite autour de la Terre ? En ne s'étant entraîné que quelques mois, c'est le défi que s'est lancé SpaceX, dont la première mission de tourisme spatial doit décoller ce soir, depuis Cap Canaveral en Floride.
Donc on aura la réponse demain matin. La Ligue des Champions avec l'entrée en lice des stars du Paris Saint-Germain.
Le club de la capitale qui, fort d'un recrutement estival exceptionnel, on pense évidemment à l'arrivée de Lionel Messi, démarre la compétition avec un statut de favori. Déplacement ce soir à Bruges, où Paris devrait enfin aligner son redoutable trio d'attaque, Messi, Neymar, Mbappé, le MNM, Nicolas Georgerot.
Oui, c'est un trio que tout le monde veut voir et c'est pour aujourd'hui, même si Mauricio Pochettino, pressé de questions, a voulu d'abord entretenir le mystère.
Est possible.
Messi, Neymar, Mbappé sont d'attaque physiquement et l'entraîneur parisien confesse être gagné par l'enthousiasme ambiant.
Je rejoins cette excitation collective, je suis comme tout le monde. Je serais fou de ne pas vouloir les voir jouer ensemble.
18e saison professionnelle pour Messi, mais premier déplacement de sa carrière en Belgique. Ebi Brouzakis, journaliste, commente les matchs sur le service public.
On a l'impression que c'est Joe Biden qui débarque ici, tellement les médias en ont fait beaucoup. Il y a une caméra à l'aéroport d'Ostende pour espérer avoir des images de Messi. On en a déployé à l'hôtel pour espérer avoir des images de Lionel Messi. Il y a une autre caméra qui est ici pour espérer le voir à la sortie du car. C'est l'Harlem Globetrotters en fait, hein, qui débarque. Il y a un côté spectacle autour de ces joueurs qui sont quand même ce qui se fait de mieux à l'échelle mondiale, quoi.
Trio qui sera épié sous toutes les coutures et qui devra confirmer son statut sur le terrain.
Bruges, Paris Saint-Germain à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45. Et puis malgré une belle prestation hier soir face à Wolfsburg, Lille n'a pas réussi à l'emporter. Match nul 0-0 au stade Pierre-Mauroy.
Enfin, l'iPhone version 13 a été présenté en grande pompe 14 ans après la sortie du premier modèle.
Toujours plus performant et toujours aussi cher. Prix de départ, environ 900 euros jusqu'à 1800 euros pour le modèle haut de gamme. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Bon alors, il faut bien justifier ses prix. Et pour ça, Apple a son arme secrète, la mémoire du téléphone. Expliquez-nous.
Eh oui, oui. 1 Teraoctet. C'est la plus grosse puissance jamais proposée depuis la création du téléphone et c'est très rentable. Écoutez bien, la puce coûte quelques dizaines de dollars. La plus petite vaut une vingtaine de dollars et la plus puissante à peine quelques dollars de plus. Mais à l'achat, vous payez 1159 euros pour le modèle iPhone 13 Pro d'entrée de gamme et 1739 euros pour le modèle le plus puissant. Donc 580 euros pour vous de différence. Et là où c'est très malin, c'est que cette capacité en plus va vous permettre de télécharger plus de vidéos, plus d'applications achetées sur l'Apple Store, plus d'abonnements de musique, de télé, de coaching sportif ou de jeux qui vont gonfler le chiffre d'affaires de la marque. Aujourd'hui, les ventes d'iPhone représentent 50% du chiffre d'affaires et tous ces services payants, eux, atteignent déjà 20% du résultat. L'iPhone d'Apple sert donc à vendre des services Apple.
Voilà pour l'astuce, pour l'arnaque, diront certains. Merci Martial Liu.
C'était le journal de Dominique Tenza. Ici, pas d'arnaque, j'en atteste. Dans un instant, nous sommes avec Cyprien Sini.
France Métropolitaine, voir sur carnex.com.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Dans quelques instants, le ministre de l'Intérieur répondra à toutes vos questions au 3210 et dialoguera avec vous sur l'antenne d'RTL. Mais tout de suite, Cyprien Sini, vous surfez avec le nouvel uniforme de nos policiers.
Mais oui, car hier, Emmanuel Macron tirait le bilan du Beauvau de la sécurité.
Beauvau, alors je vais expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi Beauvau.
Ah bah oui, bonne idée, c'est Ségolène Royal. Pourquoi donc Beauvau?
Mais voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent que c'est qu'un veau, un veau qui est beau. Oui. Mais, donc voyez,
on voit pas du tout. C'est bon. Donc Beauvau, parce que c'est là où il y a le ministère de l'Intérieur. Bref, beaucoup d'annonces concernant la police et surtout donc un point mode fashion tendance offert par le président car...
J'ai entendu aussi les préoccupations qui remontaient sur l'image, sur l'uniforme.
Oui, car les policiers en ont marre d'être habillés comme des sacs. Résultat, le policier automne-hiver 2022
par Emmanuel Macron.
Un prototype de polo modernisé d'un calot qui remplacera la casquette.
Oui, un calot sur la tête, un peu comme...
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse.
hôtesses de l'air.
Ah oui, comme les hôtesses de l'air, vous savez. Genre le...
Vos papiers, s'il vous plaît.
Vos papiers, s'il vous plaît, risquent de prendre des airs de...
Bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Oui, bon, après, ça fait un moment qu'on a un vrai problème avec la casquette du policier. Au départ, c'était une révolution en 1985.
Blouson, arme en évidence et casquette à l'américaine.
Le képi ne tombe plus, ne s'accroche plus dans les portières, ni rien du tout.
Mais après tout, les jeunes aiment bien la casquette, et bien on va pour la casquette.
Elle remplace le képi, c'est formidable, sauf qu'en 2004, nouvelle tenue et nouveau dossier casquette.
Et cette casquette qui tient bien mieux sur la tête quand il faut courir, tout a été repensé.
Et oui, une casquette toute neuve qui ne tombe pas, sauf que, finalement. Donc adieu la casquette, bonjour le calot, des nouvelles tenues qui célèbrent le génie de la jeunesse française, car...
Toutes les écoles de design et bacs professionnels métiers de la mode de France ont été invités à proposer une modernisation de la tenue des policiers.
Eh ben oui, ils ont fait bosser les étudiants. Il n'y a pas de petites économies. Bon, en même temps, la dernière fois en 2004, ça leur avait coûté un bras.
Nouvel uniforme, nouveau look. Le tout redessiné, s'il vous plaît, par la maison Balenciaga Uniforme.
Ah bah ouais, Balenciaga, ça ne devait pas être le même tarif. On est fort, hein. Enfin, pour la couleur des nouveaux polos, Emmanuel Macron l'a dit et répété hier dans son discours.
Je veux plus de bleu sur le terrain.
Et il va être servi. Adieu le bleu glacier un peu clair, place au bleu marine. Et ça tombe bien car...
Il y a le facteur de propreté. Les couleurs foncées sont connues pour être plus faciles et moins chères à entretenir, pour garder tout le temps une apparence propre et nette.
Pratique, ça a même plus besoin de laver son polo après une intervention, dites donc. Et en plus...
Le bleu marine est absolument partout en ce moment. Les people américaines en portent partout. Bleu marine ou bleu marine, parce que c'est dans les tendances.
Et comme ça, les méchants se feront arrêter avec élégance.
Merci Cyprien, comme chaque soir, on vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde avec votre équipe.
De l'info sérieuse sans se prendre au sérieux.
Dans un instant, Gérald Darmanin répond à vos questions. Appelez-nous dès maintenant au 3210 pour dialoguer avec le ministre de l'Intérieur. A tout de suite sur RTL.
Plus d'informations sur aldi.fr.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Il est 8h24, le ministre de l'Intérieur est donc resté avec nous, Gérald Darmanin. Ce sont maintenant les auditeurs d'RTL qui vous interrogent et ça commence avec Benoît, qui est policier en Savoie. Nous vous écoutons Benoît, bonjour, merci d'écouter RTL.
Bonjour RTL et merci d'avoir pris mon appel et bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Je souhaiterais simplement vous poser une question sur la clôture du Beauvau de la sécurité qui s'est déroulée hier et notamment sur le projet de financement des un milliard d'euros qui vont être consacrés à l'amélioration de l'ensemble de notre profession, en englobant les missions, notre quotidien. Et ma question serait plus axée si on ne serait pas sur une campagne électorale, une préélectorale, d'effet d'annonce, comme un peu Madame Hidalgo propose de doubler le salaire des professeurs au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que ce projet de financement, qui aura peut-être lieu après la réélection, n'est pas justement est vraiment une enveloppe concrète.
Alors, Gérald Darmanin.
La réponse est oui, parce que c'est dans le budget qui sera voté par le Parlement en décembre prochain. Et donc, dès le 1er janvier, ce 1,5 milliard de plus existe. Le budget du ministère de l'Intérieur, c'est déjà plus de 20 milliards d'euros. Donc 1,5 milliard de budget supplémentaire, on voit bien que c'est une augmentation très importante, mais qui n'est pas disproportionnée par rapport au budget du ministère de l'Intérieur. Et je veux dire à ce monsieur, à ce policier, que dès le 1er janvier, ces crédits seront inscrits au budget et donc dépensés. Et j'ai déjà demandé au secrétaire général du ministère de convoquer les appels d'offres qui pourront commander les 11 000 voitures qui correspondent par exemple à ce 1,5 milliard. Vous savez, dans ce cas, la preuve a déjà été faite. On a changé 6 000 de vos véhicules cette année. Nous sommes le gouvernement qui aura changé les deux tiers du parc automobile de la police et de la gendarmerie. Donc c'est du concret. La différence avec Madame Hidalgo, c'est que manifestement, elle l'annonce pour après la présidentielle, en effet.
Vous sembliez dubitatif, Benoît. Pourquoi ?
Dubitatif parce que personne ne peut nier qu'on va rentrer dans une campagne électorale, candidat déclaré ou non déclaré. Et je pense que tout le monde se pose la question si on n'est pas dans des propositions, dans des avancements. Moi, je pense que oui, comme Monsieur le ministre l'indique, le gouvernement a fait énormément pour notre profession et je pense que l'ensemble de nos collègues et les syndicats sont satisfaits. Je pense qu'on peut toujours aussi améliorer, mais je pense que là, on est quand même dans des mesures beaucoup plus concrètes. Et merci de m'avoir répondu, Monsieur le ministre, dans ce sens plutôt que des promesses. Et un budget non établi d'un de candidats ou de candidates qui vont annoncer un petit peu du tout n'importe quoi, pour résumer la chose.
Oui, Gérald Darmanin a réagi, ensuite on va donner la parole à Cédric.
Moi, je comprends tout à fait ce que vous dites, monsieur. Moi, je veux vous dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on fait jusque l'élection présidentielle, c'est du concret qui concerne votre matériel. Moi, on n'a pas promis, hier, le président de la République n'a pas promis des augmentations de salaire ou des augmentations de primes. Il a promis des changements de voitures, des nouvelles caméras, des nouveaux équipements, un nouvel uniforme, des commissariats refaits, ce qu'on a déjà largement fait, vous l'avez vu, 700 cette année. On peut encore toujours faire mieux parce que le parc immobilier est très vieillissant. On a promis du matériel, des conditions de travail, du Lazare Carnot, le Carnot de la victoire, l'organisation de la victoire. On n'a pas promis des augmentations de salaire. Et c'est ça la grande différence. On vous parle de votre matériel et on n'a pas cédé à parfois aux demandes de certains de vos syndicats, et je les respecte tout à fait, qu'il y ait une augmentation généralisée des salaires.
Voilà, le dialogue du ministre de l'Intérieur avec l'un de ses policiers au standard d'RTL. Merci Benoît de nous avoir appelés. On va donner la parole maintenant à Cédric, qui est artisan, lui, à Bourg-en-Bresse. Bonjour Cédric, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le ministre.
Bonjour Monsieur.
Alors, ma question est assez simple. Au fait, on parle souvent de la délinquance dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Mmh. Et puis, on oublie un peu les petites et moyennes villes, ou les villages d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait contre cette augmentation de la délinquance et contre cette marseillisation, si vous voulez, des petites et moyennes villes ?
Bon, d'abord, c'est toujours difficile d'en parler en général et statistiquement, oui. Mais la délinquance dans les grandes villes, elle baisse par rapport aux délinquances dans le monde rural. Vous avez raison, qui, elle, augmente. Ça se voit pas forcément, mais il y a beaucoup moins de faits de délinquance dans les grandes villes et un peu plus dans les petites villes, dans le monde rural.
Vous avez d'abord parfaitement la perception, oui, de Cédric, qui n'est pas une perception, qui est une réalité.
Alors, de manière générale, je suis contre ceux qui évoquent des sentiments. Si monsieur le dit, c'est qu'il le ressent, donc c'est vrai. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est que nous avons fait beaucoup d'efforts dans les grandes villes et il y a effectivement une augmentation légère, mais une augmentation quand même de délinquance dans la ruralité, dans les petites communes.
Marseillisation, hein, nous a dit Cédric.
C'est peut-être un peu dur comme mot, d'abord pour les Marseillais, puis ensuite comme description. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Je veux lui dire que l'augmentation des effectifs concernait les policiers ou concernait les gendarmes, dont vous savez qu'ils n'agissent pas totalement qu'en ruralité, mais qu'ils agissent beaucoup en ruralité. Il y a aujourd'hui un tiers des départements qui ont connu une augmentation forte des gendarmes. Je vais en Corrèze dès demain. Il y a une augmentation très forte aussi au nombre de gendarmes. Et puis, on doit équiper mieux nos gendarmes. On doit aussi équiper en vidéoprotection. Parce que le problème des petites villes, je vais le dire à ce monsieur, c'est qu'elles n'ont pas toujours le système de vidéoprotection que peuvent se payer les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on a transformé beaucoup de choses dans la loi. Ça, c'est concret, c'est voté et c'est à la disposition de vos élus locaux. Par exemple, un département peut se substituer à des petites communes pour installer des caméras de vidéoprotection et les regarder à la place des petites communes. Ça aide beaucoup la résolution des crimes et délits dans les campagnes.
Donc vous appelez les départements à, oui, financer, exactement, à aider les petites
s'ils le
communes
souhaitent. Ils le font déjà en partie. Le département de l'Oise, qui ne partage pas la même couleur politique que nous, le fait. On le remercie de ce travail, par exemple. Ils le font à la place des petites communes et ça aide la résolution des crimes et délits par les gendarmes. Je veux aussi dire, et c'est un point très important, qu'on va mettre beaucoup de moyens dans la ruralité, dans la recréation de brigades de gendarmerie, dans la présence plus forte de la police et de la gendarmerie, afin de répondre effectivement, non pas simplement à ce sentiment, mais à cette augmentation des vols chez les agriculteurs, chez les artisans et de délinquance qui existe. Et dans les quartiers de reconquête contre la drogue, il y en a désormais en ruralité. J'en ai décidé 3 à Méru, par exemple, dans l'Oise, ou c'est le cas aussi de l'Isère, et les gendarmes font un travail formidable.
Cédric évoquait la marseillisation de nos villes. 13 morts depuis le mois de juin dans la ville de Marseille. Est-ce que les enquêtes sur ces règlements de compte avancent, monsieur le ministre ?
La réponse est oui. De nombreuses arrestations ont eu lieu. D'ailleurs, je constate qu'elles ont eu lieu dans des circonstances très exceptionnelles. Par exemple, des gens qu'on cherchait depuis plus de 15 ans. Quelqu'un a été condamné très récemment au tribunal de Bordeaux à plus de 20 ans parce qu'il a été effectivement en lien direct avec ce genre de trafic et ce genre de règlement de compte. Et je veux aussi dire qu'on doit améliorer les informations que nous avons à l'étranger. Et il y a des pays étrangers, des pays du Maghreb, des pays du Moyen-Orient, qui abritent des personnes aujourd'hui, qui sont recherchées par la police française, qui commanditent des attentats, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, criminels, et donc des règlements de compte, et qui sont aujourd'hui à Dubaï, en Algérie. Voilà. Et donc nous devons absolument améliorer nos relations avec ces pays, ce que nous faisons. Je les en remercie, mais on doit pouvoir faire les arrestations nécessaires pour que ces personnes arrêtent de l'étranger de commanditer les assassinats en France.
Merci Cédric de nous avoir appelés. Nous donnons maintenant la parole à Nicolas qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Nicolas, le ministre vous écoute.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Voilà, je voudrais vous poser une question par rapport à l'application stricte des peines. Je voulais savoir si, en fait, le fait d'appliquer les peines permettrait non pas forcément d'augmenter les effectifs en police, mais permettrait d'éviter donc la récidive.
J'imagine simplement. Que vous évoquez ce qu'on appelle les peines planchers notamment. En fait, vous savez, c'est la question éternelle. Alors, ça se demande généralement plutôt au garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais c'est normal que vous ayez un point de vue là-dessus, monsieur le ministre.
Bon, d'abord, moi, je veux dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la justice et la police, et quand on est sur le terrain...
C'est sûr.
Ah oui, c'est sûr, parce que vous savez, la police et la justice, c'est un couple, peut-être même un vieux couple qui s'engueule, mais qui reste ensemble parce qu'ils s'aiment. Donc, je veux le dire, et toute l'amitié que j'ai pour le garde des Sceaux, de manière générale, pour les magistrats dont je vois sur le terrain, très concrètement, le travail formidable qu'ils font avec les policiers et les gendarmes. Après, il y a des discussions idéologiques, médiatiques, oui. Mais concrètement, j'ai vu peu de choses qui m'ont choqué, et je voudrais remercier ce travail de terrain. Deuxièmement, la question est posée, une fois qu'on a une peine d'un an, pourquoi la personne fait 6 mois ? Voilà, c'est la question que vous posez, monsieur. Oui. Bon, d'abord, on a beaucoup modifié ça dans la loi, à la demande du président de la République, le garde des Sceaux a modifié la loi. Toute personne qui s'attaque, par exemple, à des policiers, à des gendarmes, à des élus, à des pompiers, désormais n'ont plus de remise de peine. Ça, c'est un point très important. C'est une révolution. Hein. Il y a même des candidats qui disent « on va mettre la fin de la remise de peine ». C'est déjà fait. Donc, je les invite à brancher leur téléviseur ou à écouter RTL pour avoir les informations. Ça, c'est bonne très idée. Important. Il n'y aura plus de remise de peine. Donc, quelqu'un qui est condamné à 1 an parce qu'il a attaqué un policier, il fera 1 an de prison. Deuxième sujet, moi, je ne pense pas que ce soit la durée de la peine, monsieur, ou la sévérité de la peine qui compte en premier. Ce qui compte, c'est la rapidité de la peine. J'ai été maire d'une commune, Tourcoing, où quand des gens à 18 ou 19 ans étaient attrapés, faisaient des bêtises, ça peut arriver à chacune et à chacun d'entre nous, ça peut faire partie du passé de certaines personnes. L'important n'est pas de le condamner dans 4 ans à 3 ans de prison. L'important est de le condamner en 6 mois, peut-être à 2 ans, 1 an, mais qu'il le fasse.
La rapidité de la réponse.
Mais oui, c'est Beccaria, tous les étudiants en droit le savent, qu'il vaut mieux la sûreté de la peine que sa sévérité. Et ça ne sert à rien d'être très sévère dans 4 ans, puisque la vertu pédagogique de la peine n'a plus lieu d'être. Et cette personne est relâchée. Alors personne ne comprend pourquoi pendant qu'elle n'est pas condamnée, elle est encore dehors. Personne ne comprend, y compris elle, pourquoi elle est condamnée que dans 4 ans. Au bout de 4 ans, les juges ou les magistrats ou les avocats disent « mais c'était il y a 4 ans oui. ». Nous avons une lenteur dans notre procédure pénale. Elle est due à nos techniques, ce qu'a dit le président de la République hier pour la simplifier. Elle est due au manque de magistrats, ce qu'a annoncé
et
le président
de la République. Et au manque de places de prison. J'ai entendu hier les policiers dire « on manque cruellement de places de prison ».
Mais les policiers n'ont pas tort. C'est pour ça que le garde des Sceaux a construit 7000 places de prison supplémentaires. Je veux aussi dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans nos prisons aujourd'hui. C'est aussi quelque chose d'important à dire. Il y a plus de gens aujourd'hui en prison que lorsque le président de la République est devenu en responsabilité. Donc vous avez raison, il faut absolument qu'une peine soit exécutée, mais il faut surtout qu'elle soit dite et faite rapidement.
Et nous allons donner la parole à Jacques qui vous interroge depuis le Jura. Bonjour Jacques, nous vous écoutons.
Oui, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Je voulais savoir, y a-t-il une réelle peur d'attentats terroristes sur notre territoire à l'heure actuelle ?
La réponse est oui. Nous vivons un monde extrêmement troublé. La France est très menacée. Tous les Français d'ailleurs le sont, hein, pas simplement les dirigeants politiques ou les policiers ou les juges antiterroristes. Et nous sommes sans doute aujourd'hui assez prémunis, ça ne veut pas dire totalement, tout peut arriver, par des attentats type 2015, c'est-à-dire un attentat organisé de l'étranger avec un commando qui viendrait en France et qui s'organiserait type le Bataclan. Ça peut toujours arriver, mais on en est désormais très protégé. Mais par contre, des menaces endogènes, l'auto-entreprise de la menace, quelqu'un qui prend un couteau, qui rentre n'importe où, et qui, au nom d'une religion, commet des attentats, par exemple. Donc oui, nous avons déjoué, monsieur, 36 attentats depuis 2017, et déjà quelques-uns depuis le début de cette année. Et puis à côté des attentats islamistes, qui sont les attentats sans doute les plus proportionnellement importants qui peuvent arriver, on a de nouvelles menaces, l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, notamment les survivalistes, des gens qui pensent que la fin du monde approche et qu'il faut donc l'accélérer. Je ne dis pas ça en rigolant, c'est extrêmement sérieux. Et nous avons déjà déjoué des attentats de gens qui allaient passer à l'acte. Donc oui, monsieur, nous sommes dans une période très particulière.
La sécurité, Gérald Darmanin, ce sera le sujet principal de la campagne présidentielle ?
Bon, d'abord, c'est toujours le sujet des campagnes présidentielles. C'est bien normal, parce que c'est ce qui fait l'État et c'est ce qui intéresse nos concitoyens.
Mais on voit bien que vous êtes très challengé, et notamment par la droite, vos anciens amis de droite, Xavier Bertrand notamment.
D'abord, par les LR, parce que je pense qu'une partie de la droite soutient le président de la République. Donc, il y a une partie de la droite qui n'est pas avec le président de la République, qui s'appelle les LR. Et deuxièmement, moi, je les encourage à soutenir le président de la République. Enfin, attendez, il a créé 2 postes de policiers et de gendarmes. Il augmente comme jamais depuis 5 ans les budgets du ministère de l'Intérieur. Il a une politique ferme. Il est très dur contre l'islamisme radical avec la loi séparatisme. Il est le président de la République qui a donné les moyens, le courage, les syndicats de policiers le disent, aux policiers et aux gendarmes de fonctionner. Voilà, à part des différences de virgule, je ne vois pas ce qui empêche les candidats de LR. Voilà. Comme ils ont peur de se mettre d'accord entre eux, je propose qu'ils se mettent d'accord sur le président de la République.
Et ben voilà, merci infiniment Gérald Darmanin d'avoir répondu aux questions d'Alba Ventura et des auditeurs d'RTL. Bonne journée à vous, on a bien compris.
Merci,
vous aviez du travail. Il est le temps de nous préoccuper de notre météo à 7 jours, Louis Baudin, en commençant par les orages.
Hein. Exactement, hein, des orages encore dans le Languedoc, attendus cet après-midi, même si c'est un peu calmé ce matin. C'est vrai que de nouveau, il y aura un risque de forte instabilité donc sur le Gard, l'Hérault. Ça remontera autour de la vallée du Rhône, également région Rhône-Alpes, plus généralement des Pyrénées aux Alpes, encore des averses orageuses. Ça se calmera un peu au nord de la Loire avec des averses mais plus orageuses et quelques éclaircies. Les températures en baisse. Demain, on retrouvera encore un petit peu d'instabilité, mais a priori, près de la Méditerranée, ça devrait aller un petit peu mieux. J'y vais prudemment. Des orages seulement sur les reliefs. Dans la moitié nord, on retrouvera quelques éclaircies, beaucoup moins d'averses. Vendredi, petite journée d'accalmie, a priori, avec un temps plus sec, plus ensoleillé, un petit peu moins de nuages, température de saison. Et puis pour samedi, j'hésitais là depuis le début de la semaine, c'est plutôt la version un peu pessimiste hein, qui devrait l'emporter. Donc avec samedi, bah oui, des passages nuageux, quelques pluies dans la moitié nord, un peu plus d'éclaircies dans le sud. Mais ça sera finalement assez moyen pour un week-end. On va plutôt vers ce scénario.
Quand vous dites dimanche, assez moyen, généralement, ça veut dire ouais, pas voilà. Franchement moche, mais bon.
Voilà.
vous
me connaissez là.
Moi, je lis très très bien le Baudin.
Et puis dimanche, ben là aussi, hein, on doit avoir des alternances entre passages nuageux, éclaircies. Bref, ça sera là encore assez moyen. Et puis en début de semaine, ben, ça pourrait même s'aggraver assez sérieusement avec de nouveau beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et des températures à peine de saison.
Moi, je vous propose quelque chose. On est mercredi.
D'accord.
Ça peut peut-être évoluer d'ici là.
Merci. Yves de m'aider dans ce travail pour la fin de semaine.
Merci infiniment Louis Baudin. Bonne journée à vous. Dans un instant, nous serons avec Isabelle Choquet.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL.
Pôle emploi, on est là pour vous.
RTL Matin. La face cachée de la Une.
À quelques heures de l'entrée de Messi en Ligue des Champions, Isabelle Choquet, et sous le maillot de PSG, retour sur l'enfance du prodige argentin.
Et sur son père, Georges Messi, devenu son agent tout puissant. C'est lui qui a dealé le transfert du Barça à Paris. De toute façon, c'est lui qui deal tout.
Oui.
Le magazine SoFoot est remonté aux origines à Rosario, en Argentine, dans les années 90, sur les traces d'un homme aussi taiseux que son fils, à moins que ce ne soit le contraire. Dans la saga Messi, Georges est vite devenu le méchant, en fait. C'est lui qui verrouille tout, surtout les finances. Un as du montage financier qui esquive les impôts comme son fils dribble les défenseurs. En même temps, il n'a jamais payé beaucoup d'impôts. Superviseur dans une aciérie, ça ne lui rapportait pas grand-chose, à part les reproches de son fils de 8 ans. Car tous les samedis, c'était la même chose. Georges sortait vite du boulot à 43 km de Rosario. Le temps de rentrer, récupérer Léo et filer au club de Newell's à bord de sa Peugeot 504. Ben voilà, Léo et son père étaient souvent les derniers à arriver. Et un jour, alors que Léo enfile vite fait son maillot, l'entraîneur Carlos Morales le retient. « Non, toi t'es arrivé en retard, tu restes ici. » Et il le fait asseoir sur le banc de touche. Un jour de demi-finale contre El Torito. Derrière le grillage, les parents vocifèrent pour que Morales fasse entrer le petit Maradona, comme on l'appelle. Tous, sauf Georges, qui ne dit rien. Absolument rien. Il grignote des petites graines de tournesol et il se tait. Deuxième mi-temps, Léo n'entre toujours pas et Georges mange ses graines. El Torito mène 3-0. Il reste 10 minutes à jouer et enfin, Morales dit à Léo « Allez, arrange-moi ce bordel et la prochaine fois, viens plus tôt ». À l'époque, la famille habitait dans une sorte d'impasse qui se terminait sur un talus. Léo jouait contre des gamins plus âgés, 15 ou 16 ans, mais aucun n'était capable de lui prendre la balle. Un voisin disait « Oh là là, t'as vu la misère qu'il leur met, ton gamin ?» Et Georges riait, il ne disait rien. À son fils prodige, il ne disait rien non plus. Pas de conseils, pas de reproches, juste parfois un regret. Il aurait voulu qu'il tire plus souvent au but, car Léo driblait tous ses adversaires, mais ensuite, il passait le ballon. Le coach hurlait depuis le banc de touche « Mais tire, tire ou je te sors !» Et Georges, lui, ne criait pas. Un mur. Ce jour-là, contre El Torito, Messi fait 2 passes décisives. Son équipe égalise 3 partout. Il reste 2 minutes à jouer, pas plus. Et soudain, comme à la maison, Léo laisse derrière lui 2, puis 3 gamins. Il se retrouve seul face au gardien, il le dribble et il marque le but de la victoire. Et plus tard, dans la 504, il dit à son père « Bah, à cause de toi, j'ai pas joué. Georges ne dira rien quand il se retrouvera quelques mois sans travail. Il ne dira rien quand il faudra un traitement hors de prix pour soigner le retard de croissance de Léo, jusqu'à ce jour où le jeune footballeur essaie de récupérer une coupe qu'il a gagnée. Le club refuse parce que la famille doit encore une part de la licence. Alors là, Georges va voir l'entraîneur. Sérieux, Carlos, après tous les trophées qu'il vous a fait gagner, pendant un an et demi, Newell's va prendre en charge le traitement, mais quelque chose s'est cassé. Léo se tourne vers un autre club. La famille Messi quitte Rosario. On a posé beaucoup de questions à Georges. Il n'a rien dit.
Bien sûr.
Georges de la Jungle, portrait à lire dans SoFoot, un numéro spécial entièrement consacré à Léo Messi.
C'était passionnant, vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci Isabelle, on se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Ben voilà, dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire, hein?
Rendez-vous en magasin sur IKEA.fr.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi. Depuis qu'il est candidat à la présidentielle, Éric Ciotti peine à décoller dans les sondages. Christian Jacob, le président des Républicains, l'a reçu pour en parler.
Oh, et ben voilà, hein, ça veut devenir président, ça déclare sa candidature, résultat, tout le monde s'en fiche, hein, pas un canard n'en parle. Je ne suis pas un canard. Mais enfin, mon petit bonhomme, je ne parle pas de toi, je parle des journaux. Même nos amis du Figaro, ils s'en fichent. Hein. Je sais, je les ai appelés, et tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Je te le donne en mille. La candidature de Ciotti, elle casse pas trois pattes à un canard.
Et puisque je te dis que je ne suis pas un canard.
Ah ben ça, on va le savoir, mais si tu veux vraiment exister dans cette campagne, va falloir muscler un peu ton jeu, hein, sinon tu vas devenir le vilain petit candidat dont les électeurs ne veulent pas. Mais tu sais, c'est pour toi que je dis ça, hein, depuis que tu as annoncé ta candidature, tout le monde se moque de toi aux quatre coins-coins de l'Hexagone.
Et pourquoi tu dis « coing-coing »
Ma langue a fourché, mon petit bonhomme, voilà tout. Hein, tu es en train de devenir complètement paranoïaque, mon petit bonhomme. Faut vraiment que tu te calmes avec ça, sinon tu vas finir à la une du canard enchaîné.
Mais je ne suis pas un canard.
Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine ont révélé la liste des 100 monuments en péril qui bénéficieront d'un soutien financier grâce à la 4e édition du Loto du patrimoine. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mademoiselle Jade et merci de me recevoir pour parler de nos monuments en péril.
Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Quel monument allez-vous essayer de sauver cette année, Stéphane?
Eh bien comme d'habitude, des églises, des ponts, des lavoirs, mais aussi des monuments au sens plus large du terme, comme par exemple les bistrots parisiens.
Je ne savais pas qu'ils étaient menacés.
Mais si, chaque jour à Paris, un bistrot disparaît pour laisser sa place à un barrage jus, une maison du smoothie ou un atelier de l'infusion détox. Il faut sauver nos bistrots en péril avec leurs ingrutilants et leurs distributeurs de cacahuètes aux bonnes traces d'urine.
Oh bon, en même temps, vous avez raison. Un autre exemple?
Oui, mais pas des moindres. Puisque j'ai décidé de venir en aide à la langue française.
Ah, je ne savais pas que c'était un monument en péril.
Bien sûr que si, elle s'affaiblit chaque jour un peu plus sous les coups de boutoir de l'écriture inclusive. Si on n'y prend pas garde, les français.e.ts seront bientôt obligés.e.s de parler ainsi. C'est dramatique.
Bah oui, c'est vrai que ça mérite de se battre. Là.
Je ne vous le fais pas dire. C'est pourquoi je viendrai aussi en aide à cet autre monument en péril qu'est la chanson française, menacée chaque jour par des chanteuses à franges, coup de cœur de France Inter. Oh. Mais je ne citerai pas de nom pour de fois ces personnes.
Et le reste?
Je te le laisse.
Le reste, je te le laisse. Le reste, on vous le laisse, Stéphane. Prenons maintenant un peu de recul et envolons-nous vers l'espace pour retrouver la station internationale avec à son bord notre spationaute préféré. Bonjour Thomas Pesquet.
Ben bonjour les petits terriens. Je dis petit parce que vu de la station, tout a l'air plus petit. Le canal de Suez a l'air petit, le Mont Blanc a l'air petit, même la Tour Eiffel a l'air plus petite que ma bite.
Oui.
Bah, Thomas.
On s'égare, Thomas. Revenons à votre mission. Vous devez être très occupé. On a été surpris, je suppose. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Oui. Depuis 5 mois, je tourne. Je tourne autour de la Terre, je tourne de haut en bas, je tourne de bas en haut, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je tourne sur place, je tourne des vidéos avec mon saxophone, je tourne autour du frigo, je tourne.
Oui, bah, merci. Voilà, on a bien compris que vous tourniez. Mais à part ça, que se passe-t-il là-haut
Écoutez, disons qu'il faut bien cohabiter avec 10 autres astronautes en chaussettes qui vous tournent autour. Heureusement, grâce à la pesanteur, on fait ce qu'on appelle des expériences scientifiques.
Ah, ben, très bien, racontez-nous ça, Thomas Pesquet.
Bah, par exemple, l'autre jour, on a mangé du cassoulet lyophilisé préparé par Thierry Marx.
Ah bah, le fournisseur officiel de vos repas dans la station.
Ouais, c'est ça. Ouais. Après le cassoulet, on a fait une expérience scientifique dans la cuisine de la station.
Oui, j'ose à peine vous demander quel genre d'expérience.
Eh bien, je vous explique, dans l'espace, on se déplace par propulsion. Donc là, on a fait une expérience pour voir celui qui se propulsait le plus loin.
C'est très intéressant, Thomas. Et qui a gagné?
Ben, c'est mon homologue japonais. Il a réussi à faire trois fois le tour de station, mais sans ravitaillement. J'ai posté la vidéo sur ma chaîne scientifique YouTube.
Eh bien, on ira voir. Merci, Thomas Pesquet. Bon séjour là-haut.
J'ai aussi posté la vidéo de mon homologue italien qui joue au ping-pong avec son pipi en boule.
Merci beaucoup, Thomas. On en sait plus.
C'est passionnant, la science avance.
Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, vous le savez, est confrontée à une nouvelle affaire judiciaire concernant l'œuvre de son mari. En effet, deux sociétés concurrentes se disputent les droits de l'hologramme de l'idole des jeunes. Laetitia Hallyday a donc demandé de l'aide à Johnny dans ses prières.
Maman, tu m'entends?
La tia-tia. La tia-tia. Est-ce que c'est toi qui m'appelles d'ici bas, de là-bas, tout en bas, pendant que je bois un cul?
Oui, maman, c'est moi. Et toi, c'est toi?
Bien sûr que c'est moi, la tia-tia. Le seul, le vrai, en cuir et en roc. Qu'est-ce que tu crois que j'étais, sinon? Mon monogramme?
Alors justement, maman, je voulais faire un concert avec ton hologramme qui s'appelle « Que je t'aime ». Mais il y a des concurrents qui veulent faire aussi une tournée posthume avec ton hologramme qui s'appelle Gabriel.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tourner en costume avec mon monogramme qui s'appelle Gabriel? J'y comprends rien du tout. J'en ai connu une de Gabriel. Ils ont déjà une sans voir les jours, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné.
Mais, maman, quand tu me disais que tu allais chez Gabriel, je croyais que c'était dans le studio de Michel Drucker.
Ah bon? Tu croyais?
Oui.
Mais dis-moi là, tia-tia, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ou si c'est une idée de ton Lali, j'espère, si c'est une bonne idée, tous ces concerts de mes monogrammes qui chantent. Parce que tu sais, un monogramme, ça ne transpire pas. Ça déchire pas sa chemise. Ça se trompe jamais de ville quand ça dit bonsoir Clermont-Ferrand à Saint-Étienne. Et ça paye jamais sa tournée après le show. Tu vois, c'est monotone un monogramme. Alors, je comprends pas pourquoi qu'ils veulent tous me monogrammer.
Bah, maman, c'est parce que tu es un trésor public.
Oh ! Ah, merci beaucoup pour ce délicieux moment. Bah, merci à toute l'équipe.
De rien.
On se retrouve. À demain.
À demain.
À demain.
Avec grand bonheur. Et Cyril Lignac est avec nous dans un instant. Il est d'ailleurs d'ores et déjà là. On va parler espadon.
Oui.
Bah, moi, j'aime
facile.
Bien ça. Oui, non, mais il faut faire attention à la façon dont on le cuisine.
Exactement.
Ah, bah voilà.
Votre créateur cuisiniste.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h58. Bonjour. C'est un message de Corinne de Périgueux que je vais vous lire. Partout que j'aille, nous dit Corinne, je n'arrive jamais à manger un espadon qui ne soit pas de la semelle de chaussure. C'est quoi l'astuce pour réussir la cuisson? Avec quelle sauce tu me conseilles et quel accompagnement? Elle est chaudasse.
Alors, cette l'espadon, Corinne, c'est vrai que c'est un poisson qu'on n'a pas très commun, puisque d'habitude on mange toujours du thon.
Oui.
Mais il faut savoir que l'espadon, il est pêché dans l'océan Atlantique, Pacifique ou Indien, et même dans la mer Méditerranée, on en trouve. Donc l'essentiel, c'est soit on le fait griller, tout simplement, bien griller et on le cuit. On le laisse terminer au four tout doucement. Moi, j'ai une préférence pour la cuisson en sauce.
Alors, dites-nous.
C'est-à-dire, je coupe des petits morceaux d'espadon, je les passe à l'huile d'olive avec un peu d'ail et de romarin, juste poêlé. À côté, je prépare une piperade. Donc, je mets de l'oignon, des poivrons jaunes, rouges, verts, de l'ail. On fait revenir tout ça à l'huile d'olive. On met un peu de piment d'Espelette.
Oui.
On déglace au vin blanc.
Ah, très bien.
On laisse réduire, on ajoute un peu de sauce tomate. Et on laisse cuire tout doucement, voilà, quand ça mijote.
Sauce tomate ou concentré de tomate?
Alors, sauce tomate.
D'accord.
Parce que le concentré, c'est beaucoup plus, ben, comme on dit concentré, c'est plus pour c'est faire une sauce. Voilà. Et ensuite, je coupe des petits morceaux de chorizo, comme ça, je mets dedans et je fais un mélange terre-mer. Et quand c'est bien mijoté, j'apporte mes petits morceaux d'espadon à l'intérieur, je les laisse mijoter tout doucement. Et là, avec la sauce tomate, les poivrons, un petit peu de chorizo, l'espadon, j'ai envie de dire, on est quand même un petit air de Pays Basque.
C'est extrêmement sympathique. Vous m'avez ouvert l'appétit. Je pense que notre Corinne sera heureuse, Corinne de Périgueux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.
À demain.
Et on retrouve bien entendu toutes vos recettes sur le site rtl.fr. RTL, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité avec Dominique Tenza.
Une personne toujours portée disparue dans le Gard au lendemain des violents orages et des pluies records qui ont frappé le département. Elle serait tombée dans le Rony, un cours d'eau dont la hauteur est passée de 40 cm à 4,5 m en quelques heures. Gérald Darmanin, invité de RTL ce matin, a confirmé l'état de catastrophe naturelle dans le Gard. Les conditions météo pourraient à nouveau se dégrader dans la matinée dans le département, mais aussi dans le Massif central et le Languedoc. Le SMIC va connaître une augmentation automatique à partir du 1er octobre, conséquence de l'inflation estimée à 2,2% par l'INSEE cette année. Vacciner ou renvoyer, c'est désormais la règle pour les professionnels de santé, un peu plus de 2 700 000 salariés concernés dans les hôpitaux, les maisons de retraite, pompiers également, ambulanciers, on estime à 300 000 le nombre de soignants n'ayant encore reçu aucune dose. Et puis l'entrée en lice ce soir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Bruges, le club de la capitale qui devrait être aligné pour la première fois son tri d'attaquants Messi, Neymar, Mbappé. RTL Foot, spécial Ligue des Champions, match à suivre en intégralité à partir de 20h45. Hier soir, Lille a été tenue en échec 0-0 à domicile au stade Pierre-Mauroy par les Allemands de Wolfsburg.
Ce sera jusqu'à 23h avec tout le service des sports. Merci beaucoup.